Oh, voyez-vous, ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Qu'est-ce que c'est?
Tu m'as dit une petite de mon gorgon?
Ça veut dire qu'on est piégé, ça, qu'à pour sa peau.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Oh, je ne suis pas si réjouie que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette bête!
God, please, no! 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 No!
Bonjour!
Oh, hello!
Il ne l'avait pas dit celle-là, tu vois, il voulait pas qu'on réagisse.
Je fais des blagues! Et oui, c'est aujourd'hui.
Non. De quoi?
Elle en a rien à foutre de l'effet.
Oh, c'est l'anniversaire du récapito!
Deux ans du récapito!
Deux ans?
J'avais pas compris. Je croyais que tu.
Tu croyais qu'il fêtait son propre anniversaire?
Le gars très, très égocentré.
Ça aurait été drôle, mais...
Je me demandais pourquoi j'avais pas une musique.
Mais non, voyons.
Pour le mien.
Le récapito fête ses deux ans ce mois-ci.
Joyeux anniversaire, récapito.
Oui.
Joyeux anniversaire.
Il grandit. Et nous aussi, on grandit.
Bah oui.
Rappelons-nous, il y a deux ans, quand nous étions tout timides et tout... Tout mou.
On va pas nous entendre par-dessus ça.
C'est vrai.
Tout mou derrière ce
micro.
Derrière, micro de piètre qualité.
Aujourd'hui, j'ai un pied de micro.
C'est vrai, mais du coup, il est très très bas pour autant.
Ah non, je suis bien là.
Ah ouais ? Ok.
On espère que la qualité continue de s'améliorer et que l'écoute est de plus en plus agréable. Ce mois-ci, donc, pour ce mois spécial anniversaire, mais qui ne va pas être un mois spécial anniversaire longtemps, on va parler de Young Royals sur Netflix, de Star Wars Andor sur Disney+, et de Enola Holmes 2 sur Netflix. Mais avant de commencer, un petit peu d'actu. En plus, c'est de l'actu, mais c'est de l'actu du mois dernier.
Ah, ça commence bien l'anniversaire, on est toujours mauvais.
On avait oublié d'en parler. Disney+ a annoncé être diffuseur international de Doctor Who, série que Mathilde et moi apprécions beaucoup. Je sais pas, tu regardes Damien ?
C'est sympatoche de temps en temps.
Oui, donc tu regardes, mais tu n'es pas non plus.
Je suis pas grand fan.
Tu n'es pas un Who fan comme nous.
Un Who fan.
Donc, à partir de 2023, Disney+ diffusera l'épisode du 60e anniversaire, puis la saison 15 sur sa plateforme.
Est-ce que c'est un nouveau docteur à la saison 15?
Yes. C'est un acteur de Sex Education dont je n'ai pas encore retenu le nom.
D'accord.
Cool. Et ce sera le premier docteur noir, pour info. Mmh.
Il est trop bien, et en plus, il y aura l'actrice qui joue dans Heartstopper aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Qui s'appelait comment ?
Sa compagne,
J'ai pas son nom non
sa
plus.
Sa compagne, c'est une actrice qui vient de Heartstopper. Et donc, l'intégralité de la série devrait aussi être dispo sur Disney+. En France, en tout cas, aussi, ça veut dire que France Télévisions perd... sans doute les droits de diffusion, donc ça c'est un peu triste. Mmh. Et évidemment, au Royaume-Uni, la BBC reste diffuseur de Doctor Who, puisque c'est elle qui crée, donc c'est normal. Mmh. Voilou, on n'a rien d'autre.
Je cherchais le nom du gars, mais quand tu tapes saison 15 Doctor Who, tu tombes sur celle de 70, et du coup c'est...
Ah oui.
C'est quelqu'un qui est sans doute mort maintenant.
Quoi ? Mmh.
Tom Baker.
Il ne faut pas écrire ça.
Il n'est pas mort, Tom Baker. Je sais plus. Si je vois sa tête, peut-être que je saurai.
Je peux vous dire son nom si vous voulez. C'est. Ah bah c'est lui. Mais vous le voyez pas.
T'as fait l'inverse de ce que tu
veux. Non. En fait, je sais pas le dire. Non, je sais pas le dire. C'est Knuti Gadwa. Je sais pas le prononcer. C'est Knuti Gadwa.
Aucune idée.
On aura le temps de l'apprendre d'ici là. C'est bon pour les actus. Voilà, c'était très expéditif. On peut passer aux séries du mois de novembre.
Oui.
C'est Mathilde et Damien qui ouvrent le bal.
Mais c'est moi qui en parle parce que je pense que j'ai un peu moins de séries vu que je n'ai pas vu grand chose.
Oh, vas-y, d'accord. Je te laisse la présenter.
Ok, je vais la présenter. C'est The Bastard Son and the Devil Himself. Alors, j'ai oublié le titre en français.
Mal et fils.
Ah, mal et fils. Ah, il y a un jeu de mots.
Ouais, c'est un jeu de mots.
Ok. Et bah du coup, c'est la première saison de 8 épisodes de 49 minutes. C'est sorti le 13 octobre 2022 sur Netflix. Donc c'est pas une nouveauté, mais c'est quand même récent.
Ça justifie.
Oui.
Parce que j'ai pas mis le petit flag. Donc le résumé, c'est Nathan Byrne qui est le fils du sorcier maléfique le plus puissant du monde. Il est sous surveillance depuis sa naissance, mais alors qu'il est sur le point de débloquer son immense potentiel, de nombreux sorciers vont tenter de le tuer pour éviter de prendre le risque que l'adolescent devienne aussi mauvais que son papa, qui est maléfique. Moi j'ai trouvé que c'était une assez bonne série avec des acteurs de différentes nationalités. Il y a des Français et des Anglais, je l'ai vu en VO. Et pour le coup, en France, ça parle pas mal français. En Angleterre, ça a un accent anglais, c'est marrant. On suit Nathan qui a une histoire familiale assez compliquée. Vraiment, c'est horrible son truc d'histoire familiale. Son papa, il s'est fait trahir. C'est très, très triste et tout. Il faut... Je saurais pas trop trouver d'équivalent dans la littérature. Mais pour un truc d'ado, ça m'a un peu chagriné, moi, toute cette histoire. J'ai trouvé que les effets spéciaux étaient des fois un peu justes parce que tout le reste est... assez cool au niveau de la photo, les plans sont beaux et tout. Mais bon, des fois, ça sortait un petit peu. Je me souvenais d'avoir décrit la série à Mathilde comme étant un mix entre Harry Potter et... Elle s'en souvient pas non plus.
Harry Potter. Ah si, tu m'as dit Harry Potter et pas Teen Wolf.
Ouais, c'est peut-être ça. Harry Potter et Teen Wolf, ça marche bien. C'est un mix entre les deux.
Robert. Robert Pattinson.
Robert Pattinson. Oh là là.
J'ai vu le tic-tic.
Et voilà, j'ai bien aimé cette saison. L'histoire est plutôt intéressante. C'est un peu gore des fois, mais c'était un petit peu période Halloween, donc ça m'allait très bien. Et ça a mis plein de choses en place, donc j'ai hâte de voir la suite.
Bah moi, je suis plutôt un peu d'accord. Merci de m'avoir dit de regarder cette série.
Ah bah je t'en prie.
Comme tu m'as dit, regarde-la, je l'ai regardée. Je fais pas ça pour tout ce qu'on me dit. Hein. Mais non, c'était bien. J'ai vraiment bien aimé le genre, l'univers, le contexte. Comme tu dis, c'était un peu du Harry Potter, mais plus réaliste, tu vois. Genre, oui. Je trouvais que ça plus réaliste. Les deux acteurs étaient cool. Et même si c'était gore, enfin moi, je trouvais ça vraiment gore et violent pour une série pour ados. Genre, en fait, au départ, je croyais vraiment que c'était une série pour ados, vu que tous les protagonistes sont jeunes.
Je pense que c'est une série pour ados.
Et puis, bim, d'un seul coup, c'est vraiment parti. Ça, ouh,
mais
ça
à l'adolescence, maintenant, la définition, c'est jusqu'à 21 ans.
Donc, ouais, c'est ça.
Les adultes.
Jusqu'à voilà. Que quand les êtres humains se mettent à exploser, je me dis, ouf. Oui, oui. Mais c'est sympa ça.
Et là, pour le coup, les effets spéciaux sont cool.
Ah, l'effet spéciaux. Il est trop spécial celui-là. Il fait ouh. Ouais, c'est particulier. Non, mais c'était bien. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, donc c'était plus violent que les séries pour ados d'habitude. Et au final, c'est pas mal, ça change, tu vois. Et j'ai passé toute la série, tout le début de la série, toute une partie de la série à me dire mais c'est pas possible, Nathan et Gabriel. Il crush ou il crush pas, en sachant
que c'est une série pour ados.
En sachant que Nathan, il crush aussi avec l'autre, avec l'héroïne Annalise. Mmh. Et du coup,
attends, la fille s'appelle Annalise.
Oui, elle s'appelle Annalise, pas Anna.
Anna-Lise.
Non, c'est vraiment Annalise.
Ah bon?
Oui, j'ai été voir son prénom, ça s'est attaché, c'est Anna-Lise attaché.
Ses parents étaient comptables. Anglais.
Non, c'est pas le mot analyse, mais c'est Anna et Lise attachées.
Oui. Mais oui, ça finit un peu en trouble.
Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai passé tout le moment à dire, bon, ok, il est avec Annalise, mais attends, avec Gabriel, ça crush. Et je me suis dit, ça se trouve, ils vont juste laisser ça en suspens pendant tout le temps. Et non, en fait, non, il y a des bisous. Et en fait, c'est un trouble. Et je trouve ça trop mignon qu'ils fassent un troupe, c'est trop chou, ils sont trop mignons.
C'est pas un vrai troupe, c'est plus genre...
Bah, je pense. Enfin, ils se l'ont pas dit clairement. Mais je pense, j'en sais rien. On verra, justement. Oui. Il faut regarder la suite pour savoir s'ils vont devenir un troupe ou pas.
Il y aura une suite
Oui, bah, il y a une saison 2 qui est déjà prévue. Et c'est adapté d'un livre qui est de tomes. Je sais pas si ça correspond tout pile à saison 1, saison 2, mais en tout cas, il y a une suite.
Et mon perso préféré, c'est Gabriel. Il est trop cool. Il est trop stylé. Et c'est lui qui est français, d'ailleurs.
Ouais, bah, y a pas que lui. Il y a pas mal de Français dans tous ceux qui sont à Paris, en fait. Et d'ailleurs, quand les flics parlent anglais, c'est une horreur en VO.
Mais j'avais mis en VO à ce moment-là.
Ah ouais.
Oui, il y a des moments où j'ai dû changer pour voir comment c'était. J'ai dit, oh là 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 là, ça ne va pas du tout. Mais voilà, c'était une très bonne série. Regardez-la. Regardez-la.
On va enchaîner avec une autre très bonne série. Il s'agit du marathon que Mathilde et moi avons fait ces derniers mois. C'est Brooklyn Nine-Nine.
Le marathon de New York.
Oui. C'est presque ça.
Les saisons 1 à 8, ça fait en tout 153 épisodes de 21 minutes.
C'est passé tellement vite.
C'est sorti entre 2013 et 2021, donc ça reste très récent. C'est dispo sur Netflix. Et Damien l'avait déjà vu.
Oui.
Le résumé...
Deux fois.
C'est un purée. C'est-à-dire que tu as vu 206 fois. 306 fois, bah dis donc.
Sauf la saison 8. Mais...
Brooklyn Nine-Nine raconte la vie du commissariat de police du 99e district dans l'arrondissement de Brooklyn à New York. L'arrivée du capitaine Holt, froid et strict, fait rapidement regretter au détective son prédécesseur, notamment pour le détective Jake Peralta, trublion immature du bureau.
C'est toi qui as écrit ce résumé.
Trublion.
C'est Wiki, je crois.
Trublion,
c'est un peu comme les
le petit
fauteur de troubles.
Oui, voilà. Mais c'est gentil, c'est pas un relou, c'est un petit trublion. Mm. Fait des blagounettes.
Plutôt des enfants.
J'aurais aimé un coussin péteur sur les chaises et tout. Qui veut commencer à en parler?
Moi, j'ai pas écrit grand chose, donc je peux. Bah, on a regardé 8 saisons, et si on devait tout résumer, il y aurait trop de trucs à dire. Mais le truc principal, c'est que j'ai beaucoup aimé. C'était trop marrant. Il y a des épisodes où vraiment je pleurais de rire. Je pleurais. Genre principalement des épisodes où il y a Cheddar. Quand il y a du Cheddar dans un épisode, Holt.
Le corgi.
Mais non, mais
ah
c'est
non,
parce que.
Dans... Pas dû expliquer,
c'est vraiment. Parce que quand il y a Cheddar dans un épisode, Holt est juste incroyable en fait.
Oui,
il est plus motivé.
Il fait des répliques et des trucs. Il dit des trucs sur son chien.
Cheddar n'est pas un.
Cheddar n'est pas un rat. Non, c'est un chien. Parce qu'on lui propose de donner un os à son chien. Il dit Cheddar n'est pas un rat. Non, mais c'est trop bien. Et il y a d'autres épisodes, vraiment, il y en a 3 ou 4. Il y en avait un, je sais plus pourquoi, mais on avait dit Adam et on était pliés de rire. Et c'était. Voilà, il y a vraiment des épisodes où ils sont trop marrants.
Oui.
Et c'était trop bien. Et maintenant, il n'y a plus de sitcom à regarder. Je suis triste. Alors, créez une nouvelle petite sitcom vraiment cool, s'il vous plaît.
Ça viendra.
Les auditeurs, créez-la.
Moi, j'avoue que j'ai traîné à me motiver à regarder la série. Damien a beaucoup insisté.
Oui.
Mais son lobbying très présent, très pesant, a eu raison de mon manque de volonté, parce que c'est une formidable sitcom, en fait. Les personnages sont très attachants. Ils ne sont pas caricaturaux. J'ai noté qu'il n'y a pas eu comme l'effet Joey dans Friends ou Sheldon de The Big Bang Theory, où en fait, à la fin... Ça devient juste des caricatures un peu... Enfin, des
c'est même l'inverse en plus.
Ouais,
Jack, c'est
des vraies
Jack, il change pas trop en plus.
Bah, Jack, c'est plus une caricature au début où c'est un peu un débilos et au fur et à mesure, il a un peu plus de profondeur pour le coup.
Ouais, c'est ça, il a de la profondeur et ça s'agit et ça a du sens.
Ouais, mais il reste... Je trouve que ce qui est bien aussi, c'est que les persos, ils restent eux-mêmes, tu vois. Même Jack, quand après, il devient papa et tout, et ben, il fait toujours des conneries. Enfin, il garde vraiment son esprit d'ado et je trouve ça cool.
Parce que... Il y a plein de séries qu'aurait fait de Charles le Joey un peu parce qu'il est un peu chelou Charles au début.
Oh,
et en fait non, on lui donne de la profondeur, on lui donne une famille et tout ça, même une famille avec des enjeux et tout ça. Et bah du coup, c'est super agréable d'avoir des personnages drôles avec des vraies caractéristiques mais qui vrillent pas la caricature.
Ouais, c'est ce qui fait que les 8 saisons sont toutes aussi bien l'une que les autres.
C'est
aussi.
Vrai.
C'est que c'est pas. tu t'ennuies pas. Quoi.
Oui. Bah ça, je l'ai noté, que la série n'a aucun ventre mou. Il y a des arcs scénaristiques qui sont très intéressants. Et pour une sitcom, en plus, les enquêtes, elles sont à peu près bien écrites. C'est pas toujours très sophistiqué, mais c'est pas des scénarios qui ruinent complètement la suspension d'incrédulité à chaque fois. Bah, on y croit à peu près. Moi, mes épisodes préférés, c'est les cases d'Halloween. Mmh. À chaque fois que ça revient, j'étais content. Et j'ai aimé aussi que la série, même si elle est humoristique, elle prend parfois le temps de poser de se poser pour aborder des choses très politiques et évoquer des sujets qui sont de société plus sérieux, comme bah, y a le racisme qui est souvent évoqué parce qu'il y a beaucoup de personnages noirs dans la série. Ou issu de l'immigration aussi avec Rosa. Et aussi les violences policières ou l'homosexualité et la bisexualité.
Le coming out, ouais. Rosa, elle est bien fait.
C'est le coming out de Rosa est bien fait. Mmh. Et même la manière dont l'homosexualité de Holt est traitée, c'est bien fait aussi parce que, en fait, c'est jamais un enjeu. Mais il dit en fait tout le temps qu'il a galéré en tant qu'homme de 50 ans en 2020 ou peut-être même 60 ans, que bah, quand il était jeune dans la police, c'était loin d'être accepté et ça lui a fermé des portes dans sa carrière.
Ouais, c'est vrai.
Donc j'ai trouvé que c'était à chaque fois bien fait avec sobriété et justesse. Et est-ce que vous savez que cette série a un record ?
Le nombre de corgis dans des scènes ?
Non.
Non.
C'est la seule fois où on n'a pas passé un seul générique la série. On a regardé les 153
fois. C'est vrai, mais il est un peu court.
Il est court, mais il est super cool.
Ouais.
Et pourtant, il change jamais.
Il y a encore Gina dans la dernière ?
Non,
c'est la seule diff. Mais je veux dire,
les deux autres qui se rajoutent.
Les visuels des personnages ne changent jamais. Et la musique est très bien.
C'est vrai.
Damien, est-ce que tu veux mettre le petit truc que tu as écrit ?
Non, bah, je suis content. Au début, quand j'ai vu vite fait le début de nos résumés tout à l'heure, je me suis dit, ah non, il va dire que ça l'a saoulé. Bon, ça va, comme tu as bien aimé, je me sens moins coupable d'avoir fait du lobbying pour une bonne série.
Je suis pas sûr qu'on la regarde tout de suite une deuxième fois, mais...
Moi, en fait, j'aimerais bien juste faire un top de mes épisodes. Genre un petit top 5 des épisodes, vraiment, ceux qui m'ont... Il y a une fois où j'ai craché, je mangeais, et j'ai arrêté, j'ai tout craché, j'en pouvais plus, je pleurais, je m'en rappelle. Je sais plus pourquoi, mais cet épisode était incroyable et je vais le retrouver.
Il faut tous les regarder et faire une tier list en les regardant.
Oui, mais c'est ça. Mais c'est comme il y a l'épisode où il y a Jack qui fait un interrogatoire et il fait chanter les gens.
Ah oui.
Non, mais il est trop bien celui-là. Et après, il y a l'autre qui dit... Sylvie qui a tué mon frère. Ah oui, j'avais oublié. Ah là là.
On va enchaîner avec une autre série que Mathilde a regardée solo.
Alors c'est moins marrant par contre, on change mon ton. J'ai regardé Young Royal, la saison 2, qui faisait 6 épisodes de 45 minutes. C'est sorti le 1er novembre, cette nouvelle saison est sortie le 1er novembre sur Netflix. C'est donc une nouveauté, enfin une nouvelle saison quoi, pas une nouveauté, c'est une nouvelle saison. Le résumé de la première saison,
Elle se prend la tête.
Ouais, je me prends la tête. Dégagé de toute obligation royale, un prince a enfin l'occasion de découvrir qui il est vraiment, mais s'il devait finalement être le prochain à monter sur le trône. Ça, c'était la saison 1. On sait que, oui, il va devoir monter sur le trône.
Oui.
Quoi ?
C'est pas ça que t'as écrit.
Enfin, bon. Si, mais c'est parce que j'ai pas lu, parce que je savais que c'était pas ça qu'il fallait dire. Est-ce que c'est toi qui l'as écrit ?
Non ! C'est toi qui as changé.
Parce que j'ai fait un copier-coller quand même d'un site. Et bon, bah,
c'est la liste pour ce site.
Est-ce qu'il va monter sur le drone ?
On ne sait pas.
Bon, moi j'attendais avec impatience la saison 2 de Young Royal. Et bah, en fait, je suis un peu mitigée. Je trouve que la saison, elle n'avance pas vraiment en fait. L'histoire n'avance pas. Donc en gros, Willem et Simon sont en froid pendant toute la saison, donc on ne les voit pas beaucoup ensemble. Et c'est un peu triste parce que c'est un peu l'enjeu du truc de les voir ensemble. Et oui, bah, ça n'avance pas. Ils se font la gueule. Ils doivent tous les deux régler leurs problèmes perso. Et au final, eh bah, ils se rabibochent. Et voilà. Donc, il faudrait regarder que va-t-il se passer dans la saison 3.
Et oui.
C'est dommage si 6 épisodes, ça avance pas. Parce que c'est ouais, pas beaucoup, ça avance pas épisodes. Beaucoup.
Bah après, il y a quelques trucs qui se passent, tu vois, mais je trouve que ça avance pas. Et donc, j'ai hâte de voir la saison 3, voir si ça a bougé. Parce que c'était ça, fallait que ça bouge. Enfin, moi, j'ai hâte de voir, allez, qu'est-ce qui va se passer après ? Et ça m'énerve, ça avance pas.
Et une...
sinon, j'ai bien aimé parce qu'on entendait Simon chanter. Et du coup, l'acteur qui joue Simon, en fait, c'est un chanteur dans son pays. Je ne sais pas de quelle origine il est, mais c'est un chanteur et il a une voix de ouf. En fait, il est acteur, chanteur, interprète et compositeur.
D'accord. Hmm. Une palette.
C'est
un artiste complet.
Un artiste complet, ouais. Il pourrait faire des comédies musicales. Peut-être. Ah, okay. J'aimerais bien.
Merci pour cet avis. On va écouter la bande-annonce de la série suivante. Arriverez-vous à la reconnaître ?
Ne vous endormez pas.
Pouvoir voler l'Empire. Il suffit d'y entrer comme chez soi. Ils sont tellement fiers de ce qu'ils sont, tellement rebuts d'autosatisfaction, qu'ils ne peuvent même pas imaginer que quelqu'un comme moi réussisse à pénétrer chez eux.
Cassian Andor, l'Empire nous étrangle si lentement qu'on n'y prête même plus attention. Alors ma question c'est, est-ce que tu préférerais pas frapper un grand coup pour un vrai résultat ? J'ai besoin de tous les héros que je peux trouver.
Pour le bien de tous.
Chacun appelle ça comme il veut.
Appelons ça une guerre.
Il y a de la sédition dans l'air, monsieur. Des poches d'éléments séditieux.
Tu es dans mes filets. Et tu es un petit poisson? Ou une grande voleuse?
Vous vous ramollissez.
Je ne me ramollis pas. Mais je vis caché depuis trop longtemps.
Tant qu'on me prend pour une sénatrice ennuyeuse, il y a une chance qu'on ne remarque pas mes vraies activités.
Quelles sont vos vraies activités ?
Voici le véritable visage de la Révolution.
J'en ai assez de perdre.
Vous l'avez reconnu ou pas, parce qu'en fait, il n'y avait aucun indice particulier. Il s'agit de Star Wars Andor, la nouvelle série Star Wars sur Disney+. Pour l'instant, c'est la première saison qui compte 12 épisodes de 40 minutes. La diffusion avait commencé le 21 septembre 2022.
C'est vrai, il y avait un épisode tous les mercredis.
Oh.
3 épisodes pour commencer ?
Je ne sais plus, je ne sais plus, je crois.
On l'a regardé tous les trois et le résumé est très rapide. En cette ère dangereuse, Cassian Andor emprunte un chemin qui fera de lui un héros de la rébellion. Vrai. J'ai pas trouvé un meilleur résumé.
Ça résume.
Allez hop, ça c'est fait.
Qui veut commencer à en parler ?
Moi j'ai écrit un truc.
Ah,
let's go.
Ouais, c'est rare. Hein. J'écris pas trop quand pour les trucs Star Wars d'habitude. Non mais du coup. Moi, en ce moment, je fais un peu une overdose de Marvel et de Star Wars. Un peu des deux. Parce que j'avais pas aimé trop Booba Truc, là.
Booba Fett.
Booba Truc.
C'était même Booba Truc.
Voilà, ça s'est envoyé. Du coup, j'étais pas vraiment, mais vraiment pas du tout motivée à regarder cette série. Et on l'a lancée, parce que je sais qu'Amy voulait la regarder. Et je faisais mon petit Canva à côté. Ah, si, si, tranquille. Une aiguille, hop, hop, hop.
vraiment décrit le Canva.
Oui. Et
c'était quelle couleur ?
Je sais plus. Et là, je me suis fait avoir par le truc parce que j'ai arrêté de canvasser. C'est incroyable. Je me suis vraiment arrêtée et j'ai vraiment apprécié le moment. J'ai trouvé que cette série, elle était trop cool. C'est vraiment une super dystopie. C'est la première fois où, en fait, je me suis rendu compte que l'Empire, c'était vraiment un enfer. C'était horrible. Les gens, ils sont très méchants. Je trouve que dans les autres trucs de Star Wars que j'ai regardé, on voyait que c'était des méchants, tu vois, mais c'est... Enfin, on te montre pas la violence ou à quel point ça va loin. On te montre des sabres laser et des gens qui se battent contre des Jedi. Enfin, tu vois, c'est...
Peut-être un peu plus dans les séries d'animation, pour le coup. Je sais pas, moi, j'avais l'impression que c'était...
Dans Rebels, peut-être un peu. Mais ça doit être... C'est un peu édulcoré, quand même. Ouais, la seule vraie scène de torture, et vous allez voir qu'en fait, elle est très, très limitée par rapport à la série, c'est... Je pense que c'est dans l'épisode 4, quand, au début, quand Leia est capturée, que Vador vient dans sa cellule et dit on va vous faire parler, et qu'en fait il y a une espèce de petite boule, un petit droïde flottant sphérique qui vole, et en fait on voit qu'il y a des aiguilles, des petites scies, on voit que c'est un droïde de torture. Ouais, c'est un peu ça. Et puis voilà. En fait, après on voit rien, mais on se doute que Leia va se faire torturer. C'est les seules fois où vraiment on évoque la torture.
Ouais, que là, ça va clairement loin. La fille là, qui se fait torturer avec des sons. Enfin, ça a
les
l'air...
sons d'enfants qui crient ou je sais pas quoi.
C'est une créature
bizarre. C'est une créature en fait bizarre qui imite les sons. Ça a l'air horrible. L'histoire de... Il devait se prendre 5 mois de prison et il se retrouve en...
Non, 6 jours et il se prend 6 ans, je crois.
Ouais, enfin, laisse tomber, n'importe quoi. Le truc de la prison où personne ne sort jamais, quand tu crois que tu sors, tu te retrouves dans une autre truc. Enfin, oh mon Dieu.
Moi, j'ai adoré dans la prison l'idée de dire, en fait, c'est le sol.
Ouais.
Au lieu d'avoir des tasers, des armes, c'est le sol qui a un taser. Je trouve que cette idée est géniale.
Elle est horrible.
Parce qu'en plus, il y a un côté très humiliant et très déshumanisant d'avoir des prisonniers tout le temps pieds nus.
Oui, mais pyjama, c'est ça, c'est vraiment pyjama, ouais. Tout est humiliant, tout est horrible, et c'est aussi un peu en mode tu sens la supériorité, je trouve, des gens qui se disent oh, de toute façon, il peut rien nous arriver, on risque rien. Enfin, je trouve vraiment tout ce côté où ils se sentent vraiment au-dessus des autres, les gens de l'Empire, c'est ouf. Et donc, du coup, moi j'ai vraiment apprécié regarder ça, et je pense même que des gens qui n'ont jamais vu Star Wars peuvent lancer cette série, tu vois. Même s'ils ne comprennent pas tout l'univers, je pense que ça peut être pris comme une dystopie à part entière sans que tu aies besoin de voir le reste, en fait. Et je trouve ça bien. Ça peut être genre une porte d'entrée dans l'univers.
Un peu comme The Mandalorian, ça peut se regarder aussi en dehors.
Un peu, après la saison 2, il y a quand même beaucoup, beaucoup de lore et des trucs, etc. Alors que là, effectivement, dans Andorre, il y a très peu de lore. Enfin, on parle jamais de Jedi, on parle jamais de Force. Comme dit Mathilde, c'est très dystopique, donc ça pourrait être dans un autre univers que dans Star Wars.
C'est ça qui...
Un univers où on voyage de planète en planète et il y a un empire et des gens qui essaient de se rebeller.
Ouais, clairement, là, c'est dans l'univers Star Wars, mais ça aurait pu être appelé totalement autrement et ailleurs. La série aurait été aussi bonne, quoi. J'aime bien ça, le fait qu'ils ne soient pas partis sur tous les trucs un peu du fanservice de Star Wars et que là, ils ont fait un truc vachement plus sympa.
Mais Star Wars, c'est
et
ça,
unique.
En principe. Et ça, c'est ce que la saison 1 de The Mandalorian arrivait à faire. C'est que Star Wars, en principe, tu peux adapter tous les genres à Star Wars. Et c'est ce qui n'a pas été fait avec moins fait avec la suite de The Mandalorian et pas du tout fait avec Boba Fett et Obi-Wan Kenobi.
Mais c'était ça, c'était Obi-Wan Kenobi qui était nul aussi. Je me savais que j'avais regardé un autre
un truc
Star Wars.
Nul,
mais non, mais tu disais quoi, tu fais une overdose, t'as rien regardé de Star Wars. Mais si, j'ai regardé des trucs. Tu vois. Mais là, je dis positif, c'est bien. Continuez comme
chapeau.
Faites ça maintenant, faites pas le reste.
Damien, est-ce que tu as des choses à dire ?
Oui. Du coup, je trouve aussi effectivement que comparé genre à Boba Fett, c'est un chef-d'œuvre, parce que c'est vraiment beaucoup mieux. Déjà, on a le temps de s'intéresser aux personnages, on voit des lieux qu'on connaît pas et qui sont autre chose que du sable.
C'est vrai qu'on n'a pas vu de sable.
Non. Il y a juste à un moment donné une espèce de planète, la planète d'où il s'échappe de la prison, mais c'est tout.
Ouais, c'est de l'eau.
Ouais.
Oui, mais non.
Il y a des plages, quoi.
Oui, c'est vrai, il y a des plages. Il y a du sable.
Ouais.
Puis c'est la planète là où il vit aussi, tu sens que c'est désertique, mais on n'a pas des dunes ou, ouais, ou des étangs.
Non, bah, tu vois que l'intérieur de la ville.
C'est ça, ouais.
Et oui, et je trouve qu'on voit quand même malgré tout bien comment les intrigues s'englobent dans tout le reste de l'histoire. Enfin, de l'histoire autre que la série, je veux dire. Mais que comme c'est effectivement pas 100% fanservice, je trouve que ça marche bien. Après, j'ai trouvé que elle était pas égale, pas tant en termes de rythme, mais plus en termes de photos. Je trouve que le début est un peu différent. Toute la première partie... toute la première partie, le moment où il braque la garnison, je trouve qu'ensuite, il y a une bascule quand même, malgré tout.
Mmh. Ouais.
Et j'avais presque l'impression de regarder une autre série. Ça aurait pu être deux trucs séparés que ça aurait marché. Enfin, en tout cas, même juste deux saisons. Et ouais, sinon, j'ai bien aimé. Voilà.
Ok. Moi, je vais un peu répéter ce que vous avez dit après le très très moyen livre de Boba Fett et le très décevant Obi-Wan Kenobi. C'était dur de se motiver à faire confiance une nouvelle fois à une nouvelle série Star Wars. Mais en fait, au fur et à mesure de la diffusion, parce qu'on n'a pas suivi chaque mercredi, je commençais à lire des avis qui étaient très positifs sur la série. Donc ça m'a chauffé. Et donc, il a fallu le temps que je motive Mathilde à regarder. Mais
a pris longtemps.
Comme elle a dit, une fois que c'était parti, c'était parti.
Oh, ça pouvait pas être pire que chez Luke.
Oui,
vraiment,
c'est vrai.
C'est ça qui m'a motivé, je crois. Passons à autre chose.
Ça arrive après chez Luke.
Oh, zut.
Quelle série, enfin, j'adore. L'intrigue est immensément politique. Star Wars n'a jamais été autant politique. Alors, quand on est team prélogie comme moi, ça peut forcément faire que plaisir. Le rythme, il est très bon. Sauf les deux premiers épisodes qui sont très rompiches.
C'est quoi que tu veux dire quand tu dis
C'était un peu ennuyeux.
C'est mou du fion.
Ah ouais, moi j'ai...
Les deux, ils sont très utiles parce qu'ils présentent tout.
Ouais.
Ils présentent les enjeux, ils présentent les persos.
Oups, ça raccorde à la fin.
Ouais. C'est un peu... Voilà, c'est mou du fion, quoi. Le scénario par contre il est vraiment très bien écrit du coup, la mise en scène elle est super soignée, il y a des scènes magnifiques, le casse d'Aldani avec les, comment on pourrait dire, les arcs-en-ciel ou les météores,
c'est
hyper beau. Il y a les décors qui sont en studio et dans le monde réel, enfin en décor naturel plutôt, sont très beaux. Et les effets visuels sont hyper réussis. Enfin, c'est pareil, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une série...
Donc tu te poses même pas la question, en
c'est
fait,
ça.
Juste,
C'est vraiment très beau. J'adore le Coruscant qu'on nous présente. Il est beaucoup plus à échelle humaine. Il est moins grandiose. Au sommet des buildings, on est vraiment...
T'es plus en intérieur.
On est en intérieur, on est dans les bas-fonds, quoi. On est presque... un peu comme on voyait dans la dernière saison de Clone Wars avec Ahsoka, un petit peu. Et du coup, le fait qu'on soit dans des décors surtout réels à Coruscant, ça entraîne la série dans un certain sentiment de réalisme. Parce que, comme je l'avais dit à Mathilde, justement, que c'était l'œuvre Star Wars la plus terrienne qui existe. On n'a jamais autant vu de choses et entendu de choses terriennes.
C'est-à-dire genre sur des planètes?
En fait, on parle d'AVC. Enfin, vraiment, c'est des termes très, 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 très humains, quoi. De la Terre.
Après, c'est un humanoïde. Et
la maladie, c'est le nom, en fait.
Ah oui.
Alors que dans Star Wars,
on a du détail.
On n'avait pas ce genre de vocabulaire. Où là, on voit un personnage, ça m'a interpellé, il a vraiment un sweat à capuche, quoi. Il a un hoodie. Et d'habitude, les vêtements sont un peu plus sophistiqués. Mais ça marche. Justement, en fait, ça fait pas feignant, on veut montrer.
Qu'il y a une diversité.
C'est ça, on veut faire quelque chose de beaucoup plus terrien pour avoir des enjeux un peu différents, tout ça. Ça me fait beaucoup penser au film Hunger Games, un petit peu aussi dans la manière dont on voit. T'as une dictature et puis t'as tout plein de réseaux clandestins qui veulent se rebeller. Enfin, ça, c'est très intéressant. La musique, elle est super. Et pour terminer, je dirais que je trouve qu'en fait, Andor, c'est exactement ce que n'a pas réussi à être le film Solo. C'est une histoire de braquage avec un contrebandier en personnage principal qui n'a pas d'idéaux, qui a quelques valeurs, mais, et qui apprend au fur et à mesure de ses aventures et de ses rencontres Parce qu'au départ, quand on découvre Andor, bah, il veut juste gagner de l'argent.
Ouais.
S'il peut faire des trucs bien, mais que ça le fait gagner de l'argent, il le fait. Mais...
Trouver sa sœur.
Puis petit à petit, ouais, trouver sa sœur, mais ça c'est un enjeu perso, quoi. Ouais. Mais voilà, enfin, au début, quand il est à Aldani, il s'en fout totalement de la cause, etc. Et c'est vraiment comme ça que Solo avait voulu être écrit, mais ça s'est complètement
foiré. C'est ce que
foiré.
Je me suis dit aussi. Quand j'ai regardé, je me suis dit, en fait, ça aurait pu être la jeunesse de... Je trouve qu'il ressemble un peu à, ouais. à ce perso, en fait.
Mais je pense que ça aurait été... Enfin, si Solo avait été... utilisé ce scénario-là, ça aurait vachement mieux marché. Parce qu'en plus, le fait qu'il y ait des ellipses temporelles qui soient très longues, eh ben, ça apporte de la crédibilité à son histoire. C'est pas comme Solo, pareil, où en fait, sa légende... Enfin, tout ce qui a construit sa légende, il l'a fait en 2 jours, quoi. Il rencontre Chewbacca, puis après, il fait le cast, le raid de Kessel, puis après, il fait ça, puis après... Enfin, voilà, il fait tout en 2 jours. Donc, c'est ridicule. Et pour revenir à Andor, je dirais que c'est la meilleure série Star Wars en live action, je le précise, à mes yeux.
Ouais, je pense...
parce que la dernière saison de Clone Wars, elle est quand même...
Pas facile de les faire des classements. Vraiment. Et je regardais le showrunner, c'est Anthony Gilroy qui a aussi fait des choses dans Rogue One, apparemment.
Oui, je dirais que j'avais vu ça d'ailleurs.
Enfin, ouais, ça a l'air d'avoir changé en cours. Ok.
Mais voilà, vivement la saison 2, du coup. Je sais pas quand elle arrive, mais elle sera aussi de 12 épisodes et ce sera a priori la dernière.
Ah, ça a déjà été prévu.
En fait, je crois que très tôt, même avant que la série sorte, ou pendant la production. Lucasfilm a annoncé que ce serait 2 saisons de 12 épisodes chacune. Et voilà.
Fini. C'est en cours de tournage, apparemment.
Oui. Et je crois que il y a quelques jours, on a eu des infos où ce serait du coup. Il y aurait 2 ans entre chaque. En fait, les épisodes iraient par paire. Et il y aurait. Mais 2 ans, c'est bizarre parce que ça va pas coller niveau temps. Je sais pas trop. Enfin voilà, les épisodes iraient par paire et il y aura une ellipse temporelle entre chaque épisode et K2SO apparaîtra dans la saison 2. Le droïde marron. Voilou.
Je vois pas de qui vous parlez.
Bah tu le reconnaîtras.
On l'a déjà vu quelque part.
Oui, dans Rogue One.
Ah oui, d'accord, je vois.
Voilou, on peut passer à la suite avec une série que Mathilde et moi avons regardé.
Oui, je vais la présenter.
Let's go, vas-y.
C'est The Playlist, c'est une mini-série de 6 épisodes de 50 minutes qui est sortie le 13 octobre 2022 sur Netflix. Dans ce récit romancé, un entrepreneur suédois et ses partenaires veulent révolutionner l'industrie de la musique par le biais d'une plateforme de streaming légal.
Mais ils disent pas que c'est Spotify ?
Si. Ils disent tout le temps. Mais là, si, voilà. C'est un biopic sur le créateur et la création même de Spotify, parce que ça parle pas uniquement que du créateur. Emilien, qu'as-tu à dire ?
Alors, la forme est intéressante.
Point.
Voilà. Non, mais j'aime bien les biopics déjà, les biopics de ce type-là, où on parle de personnalités, on va dire, du 20e et 21e siècle. Donc j'étais content de regarder The Playlist. Et j'ai bien aimé la forme parce qu'elle est intéressante. Elle ne se contente pas de narrer chronologiquement l'histoire d'un gars qui invente une start-up et qui a du succès. Et c'est pas mal, parce que là, chaque narrateur et chaque narratrice sont en fait un personnage clé de l'aventure Spotify. Donc on a le créateur, le financier, l'avocate, le producteur, le codeur et l'artiste. Et c'est très intéressant parce que ça permet de différencier les points de vue pour éviter une forme de manichéisme en mode
on a fait un truc dans... super.
Voilà, alors le créateur, il est formidable, il est trop bien. Alors lui, il était méchant, il a essayé de faire capoter l'affaire. Voilà, donc du coup, il n'y a pas un gentil, un méchant. Et du coup, les personnages qu'on pourrait percevoir comme les antagonistes de l'histoire sont un peu plus gris, comme justement le producteur. Quand il y a l'épisode sur lui, on voit que c'est pas forcément une super personne, mais on comprend ses motivations. Et en plus, du coup, la série, la série nous laisse décider un peu de l'opinion qu'on veut avoir de ces personnages. L'écriture de Daniel Ek, le fondateur, créateur de Spotify, elle est assez intéressante, parce que dans les 2-3 premiers épisodes, il est présenté comme un génie qui part de rien et qui, avec la bonne idée, révolutionne le monde. Et en fait, rapidement, on découvre que c'est un personnage plus sombre, qui bafoue ses idéaux de base, et qu'il n'a pas beaucoup de scrupules, et qu'il n'a même pas forcément beaucoup de cœur. Donc, ce n'est pas une super personne, en fait. Et la mise en scène, elle est assez riche aussi, pour une petite série à petit budget. Il y a une espèce d'ambiance un peu comme les séries britanniques. J'ai jamais réussi à comprendre, à analyser vraiment ce qu'ils faisaient, mais on voit quand c'est une série britannique. Il y a un truc, et là il y a ce même truc.
Elle est pas britannique pourtant,
mais elle est suédoise. Il y a plein de bonnes idées avec la colorimétrie aussi, à différents moments. Enfin, c'est très riche, il y a plein d'idées. Et j'aime bien ce biopic. Il m'a plu aussi. Voilà.
Mais je crois que sur Netflix, je regarde de plus en plus de séries suédoises.
Peut-être que le
j'avais
Netflix
commencé
suédois...
à regarder une autre série et j'aime bien. Et sinon, sur The Playlist, que j'ai failli appeler Spotify, mais tu vois, c'est pas lapsus. Moi, j'ai bien aimé aussi la narration, le fait d'utiliser différents points de vue pour narrer l'histoire, c'est cool. Par contre, je trouve que ça pose un mini problème de temporalité. Des fois, je ne savais plus où on était dans le temps. Je ne savais plus quel élément s'était passé. Parce qu'en fait, du coup, vu qu'on suit les narrateurs à chaque fois, on ne sait pas d'où on repart dans le temps.
Oui,
des fois, j'étais totalement perdue. Après, le truc avec cette série, c'est qu'on a encore l'impression que les mecs de la tech sont vraiment pas cool. Genre, tu dis que Daniel est nuancé, moi je trouve que c'est un connard.
Non, je dis pas qu'il est nuancé, je dis qu'au départ, la série le présente comme un mec bien qui
et
a inventé quelque chose de formidable.
Et plus
qui...
en fait, justement,
qui...
plus les narrateurs changent, plus tu te rends compte que c'est un connard en fait. Parce que entre ce qu'il a fait au codeur, ce qu'il a fait au mec qui lui donnait de la thune et qu'en fait. Il était un peu spécial parce qu'il était neuroatypique et
il a un
trouble de l'hyperactivité.
Voilà,
et quand le mec s'en est rendu compte, en fait, après, il a pris le fric tant qu'il pouvait. Et puis, quand l'entreprise était trop grosse, après, il l'a viré.
En fait, il lui dit clairement, tu ne pourras pas être crédible, donc l'entreprise ne sera pas crédible maintenant qu'on sait que tu as ce trouble. Donc, du coup, il faut que tu partes.
C'est un peu dur.
Il a même pas cherché à le défendre en mode mais si ce gars-là il l'a depuis le début.
C'est lui qui donne toute la thune depuis le début. Hein. C'est lui qui. Sans lui, il n'y avait pas de play.
Enfin, c'était son associé plus que juste son financeur. C'était
associé
quoi.
Non, c'est ça. Donc, plus ça va, plus on voit que pour moi, c'est pas une bonne personne. Hein. Et je trouve qu'aussi, il s'éloigne énormément de ce qu'il voulait faire de base. Et du coup le truc que je me suis dit c'est vraiment fou comment l'argent change les gens parce que dans le dernier épisode c'est vraiment ça quand il dit alors on n'aura pas assez de thunes on va faire un prêt pour l'entreprise mais à côté de ça il dit à sa femme non mais c'est bon tu peux construire le château que tu veux il n'y a pas de problème on va te faire foutre
le dernier épisode est hyper violent comme
il est violent
parce que ça parle ça raconte que les artistes sont
pas payés.
hyper mal payés voire pas payés et lui pendant ce temps il fait croire qu'il se bat pour les artistes mais il ne fait pas grand-chose et on le voit surtout en train de dire à sa femme pète le château là, on va péter le château du terrain et on va faire notre maison à la place. Mais notre villa quoi, il a dit fais autant de pièces que tu veux ou je sais pas quoi.
Ne fais aucun compromis, oui, c'est ça la phrase, ne fais aucun compromis, enfin c'est ouf. Et le point qui m'a un peu dérangé par contre c'est peut-être le dernier épisode justement sur le point de vue des artistes parce qu'il y a des partages qui se passent dans le futur, donc un futur possible, c'est pas réel. Et je trouve ça un peu ambitieux de dire on pense que ça va se passer comme ça. Vas-y, on essaie de vous raconter ce qui pourrait se passer. Et surtout que c'est un peu étrange parce que, en fait, en tant que personne qui regarde la série, quand tu apprends comment sont payés les artistes, quand tu apprends ce qui se passe, ça te donne envie de te révolter. Enfin, tu vois. Et du coup, c'est un peu la série qui te dit vous voyez, nous, on vous a expliqué comment ça a fonctionné. Maintenant, faites-le, bougez-vous pour que ça change. Je trouve que moi, je l'ai vraiment un peu pris comme ça. C'est comme si la série poussait à dire aux gens, allez manifester, relevez-vous contre le système, il faut changer les choses. Et c'est un peu une anticipation
chelou. Après, il y a juste d'autres plateformes que Spotify.
Mais Spotify n'est pas celle qui paye le moins bien, malheureusement.
C'est pas la pire, en fait. Je crois que Deezer est encore... elle paye encore moins les artistes.
Je n'ai pas le classement exact en tête, mais oui, Deezer est celle qui paye le moins bien, et celle qui paye le mieux, c'est Apple Music.
Okay. Non, mais voilà, mais tout ça pour dire que même, en fait, même s'ils payent le mieux ou pas le mieux, je crois que ce qu'on disait tout à l'heure, la moyenne sur Spotify, c'est 12,50€. Un artiste gagne 12,50€ par mois. Clairement, autant acheter un album. Enfin, tu vois, c'est pour ça que c'est méga important d'aller acheter un vinyle si on aime vraiment un artiste, de prendre une place de concert si on l'aime vraiment aussi, parce que clairement, c'est pas en écoutant leur musique sur Spotify qu'on les aide.
Oui,
quoi.
Même sur les CD, en fait, a priori, ils gagnaient pas tant que ça non plus. Même si c'était plus.
Oui, parce que après, là, ce qui est bien aussi dans la série, c'est qu'en fait, ils t'expliquent aussi que Spotify, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que Spotify a été. En gros, les gens qui ont Spotify sont les maisons de disques. Et du coup, c'est les maisons de disques qui font des contrats aux artistes qui font qu'ils sont pas payés aussi. Donc, enfin, en gros, Spotify est l'intermédiaire. Mais le vrai problème, c'est, enfin, ça reste quand même les maisons de disques, en fait, qui choisissent de pas payer leurs artistes. C'est vraiment eux le gros problème. Spotify est devenu l'intermédiaire entre les deux, donc c'est lui qui se prend tout dans la gueule. Quoi.
Bah, en fait, la métaphore que j'ai envie d'avoir, c'est que t'as les artistes qui sont pillés par un grand méchant loup qui est les maisons de disques, et en fait, t'as un deuxième grand méchant loup qui est arrivé, qui est Spotify.
Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ?
C'est ça. Bah, pas un méchant loup, mais en gros, t'as quelqu'un qui dit donnez-nous encore. Enfin, ouais, tu vois, qu'il y a un autre intermédiaire qui se remplit également les poches.
Et les artistes qui étaient déjà pris en otage à cause des maisons de disques en mode vous pouvez pas vivre sans nous, bah, Spotify est arrivé en étant tout aussi nécessaire. Parce qu'on dit oui, il faut soutenir les artistes autrement qu'en les écoutant. Mais les plateformes de streaming, c'est le meilleur moyen pour se faire connaître aujourd'hui. Mmh. Tu peux pas ne pas être sur les plateformes de streaming.
T'es la
mieux placée pour tu découvres des artistes qui ont 500 écoutes par mois. Enfin,
merci. Mais c'est mon travail.
Ils gagnent pas 12 euros.
Mais du coup,
peut-être que grâce à moi, ils gagnent de l'argent à force que j'écoute en boucle.
Moi, j'avais retenu que 6 euros, c'est 1000 écoutes, je crois. C'est ça.
Sur Spotify.
Ah ouais.
Parce que tu gagnes.
Ah bah ça paye mieux que TikTok.
0,006 centimes.
Un peu plus de taf pour faire une chanson que pour faire une vidéo.
Mais je crois que TikTok c'était pas les vues. C'est les vues ou c'est les likes. C'est les vues. 1000 vues, 1 euro.
Bah et après t'as pas de like ou le like est pas autant mis en avant sur Spotify. Donc du coup,
oui, mais là c'est pareil. Du coup c'est 1000 vues, 1 euro sur TikTok. Et là tu dis 1000 écoutes, 6 euros. Mm. T'es mieux payé que sur TikTok.
Mais c'est normal, je pense.
Bah, ouais.
Pas le même contenu.
Voilà pour The Playlist. C'est vraiment une série très intéressante pour ça. Si on n'est pas au courant, c'est très instructif. On va passer avec toute autre chose.
Oh là là, ça va être rapide, les gars, je vous jure. On va parler de.
Ne soyez pas frileuses et frileux de la fracasser.
Moi, je peux parler de House of the Dragon.
Oh, tu m'as.
Ouais, il y avait de l'herbe et. Ouais. dont la première saison est sortie le 21 août 2022. Je ne sais plus les modalités de.
C'était un épisode par semaine pour très longtemps. 10 semaines.
Pour 10 épisodes.
10 semaines, ça a duré des années, j'ai l'impression. 10 épisodes, pour cette histoire.
61 minutes. C'est sorti sur OCS.
Ouais, HBO grave, peut-être. HBO Max peut-être.
Je sais pas, mais sur MyCanal en France.
HBO Max en France.
Ouais, mais c'est pour ça, non. MyCanal. Ça va sortir France, là, HBO Max.
Donc le résumé. Près de 200 ans avant les événements de Game of Thrones, le continent de Westeros est en proie à de nombreux dangers. Une guerre civile se prépare dans différents endroits du royaume. Cette guerre sera appelée la Danse des Dragons. De son côté, la maison Targaryen se disloque peu à peu et le règne des dragons est menacé.
Waouh.
Moi, j'avais oublié qu'on devait en parler. Et tout à l'heure, j'ai dit, c'est un petit peu comme faire un mauvais cauchemar et après, tu te dis, ah non, je veux pas m'en souvenir. Et du coup, tu essaies de passer à autre chose.
Emilien ?
Moi, j'ai tenu 2 épisodes. Déjà, moi, je partais avec le postulat de ne jamais avoir regardé Game of Thrones.
Et là, il s'est dit, mais Game of Thrones, ça devait être bien nul aussi.
Donc, je rentre dans cet univers avec House of the Dragon. Et,
mauvais bail.
Je suis charmé.
J'ai tenu 2 épisodes parce que c'est profondément ennuyeux.
Et c'est 20%.
Et terriblement moche. Les effets spéciaux étaient horribles.
C'est vrai qu'en plus.
Les vols en dragon, mais c'était dégueulasse.
Et encore, t'as pas vu le vol de dragon où un dragon bouffe un autre dragon.
Si,
ce vol-là était particulièrement
moche. Parce qu'après, du coup, je regardais vite fait, je faisais autre chose à côté.
T'as ça vu l'épisode où il fait tout nuit aussi? T'as vu l'épisode où il fait tout nuit? En fait, on pourrait faire un jeu comme ça. Est-ce que t'as vu ça? Est-ce qu'il s'est passé un bingo du truc nul?
Je crois que vraiment mon esprit a laissé tomber quand le personnage de Matt Smith est sur la plage la nuit et qu'il fait la guerre tout seul. Ah non, il est sur son dragon. Non, et il crame des mecs dans une grotte. Et cette bataille est mal filmée.
Ouais.
Elle est moche. On comprend rien. Et je dis, pourquoi ils font la guerre? Je dis, bon, ouais, je laisse tomber, c'est fini.
C'est vrai qu'il n'y a même pas de notion de géographie qui est bien expliquée.
Non, oui, en plus...
Oh, la temporalité mal faite. Entre ceux qui montent sur un dragon et qui mettent 2 minutes à atterrir là où ils veulent.
L'espace est nul.
Ou ceux qui montent sur des chevaux et qui devraient mettre 1 semaine pour aller à un endroit, mais qui mettent 30 secondes aussi, je ne comprends pas. Les personnages, les femmes ne vieillissent jamais.
Bah les... si, mais pas toutes.
C'est les hommes qui ne vieillissent pas.
Ah, c'est.
Bah,
tu sais
le
pas,
roi, hein. Il vieillit. Hein, ah, le...
Oui, mais c'est toujours le même acteur.
Oui. Ah, oui, oui, c'est vrai. Ah, mais oui, même Matt vrai. Smith. Hein,
même, non, mais Matt,
oui, Matt Smith. Oh, il a les cheveux plus courts.
Matt Smith ne vieillit pas. Les...
C'est même pas genre, ils lui ont fait une espèce de petite calvitie ou quoi. C'est genre, il a les cheveux plus
alors,
courts.
Alors, certaines personnes diront qu'il y a moins de sexe dans cette série. Je vous dirais oui, parce que c'était que de l'inceste, en fait.
Donc, ils en ont mis moins.
Ils en ont mis moins parce que sinon, ils étaient obligés de montrer. Tout le monde en train de coucher avec tout le monde, c'était que de l'inceste, donc c'était peut-être pas le truc à montrer. Vraiment, c'est...
décevant.
Ah, c'est... Ouais, je sais pas. Et toute la saison s'est passée et je me suis dit... En fait, la série aurait dû commencer à la fin de cet épisode 1. En fait, il s'est passé quoi dans l'épisode 1?
À la fin?
Le roi
meurt. Bah, le roi, il crève.
Oui, mais elle est reine ou pas?
Son fils
ah,
meurt.
Ah non, attends, je crois que ça s'est terminé. Sur, on s'est dit, mais pourquoi ça s'arrête là? Genre, ça n'avait pas de
elle
sens.
Elle dit pas, je vais faire la guerre parce qu'on a bouffé son fils.
C'est un dragon qui bouffe son fils.
Ah, mais oui, bah d'ailleurs, ça finit là-dessus, donc en plus, on voit même pas sa réaction.
On sait pas. Si, on voit qu'elle est triste. Bah, elle vient de perdre. En même temps, cette meuf, elle a perdu son père, accouché d'un bébé qui est mort aussi,
et perdu son fils
le même jour.
Ça fait ah oui, ça,
et c'est elle est devenue reine.
Ça fait des sacrées journées.
Oh, la journée de merde, quoi.
C'est vraiment un lundi.
Ça va? Bon, comme un lundi.
Alors, mais sinon, j'avais marqué, j'ai rien préparé pour cette série, genre pour parler de cette série, un peu comme les gens qui l'ont écrit.
Oh.
Voilà.
Tu punch.
Ah, c'était freestyle. Ils étaient en freestyle, c'est ça que je voulais dire.
Vous voulez qu'on parle d'une autre série?
Mais on peut passer d'une autre série pour avant, une autre série pour avant. Enchaînons.
Ah,
on va les
classer par classement. C'était un peu le cas parce qu'on a commencé par Brooklyn Nine-Nine. Donc,
Oui, c'est vrai.
Non, mais attends, il y a des trucs bien après quand même.
Il s'agit
la dernière.
De She-Hulk Avocate.
Oh,
la saison 1 qui compte 9 épisodes d'environ 38 minutes. Ça avait commencé le 18 août 2022. C'est sur Disney+.
Mais on a mis combien d'années à regarder cette série?
On a mis à peu près 2 mois.
Mais non, on est en décembre.
Oui, bah. Vraiment, on a regardé les 2 premiers épisodes et on a dit wow, il va falloir du temps. Le résumé. Avocate le jour, super-héroïne la nuit. La cousine de Bruce Banner, Jennifer Walters, acquiert des pouvoirs semblables à ceux de Hulk.
Bah moi, j'ai écrit un pavé.
Bah, lis-nous ton pavé.
Alors, j'ai dit à la personne du marketing chez Disney qui l'a dit, qui a dit « Les gens qui aiment Ally McBeal aimeront She-Hulk. » Elle a totalement raté. Elle a raté totalement. Elle s'est plantée. Soit cette personne n'a jamais vu Ally McBeal, ce qui est possible. C'est triste, mais possible. Soit ils n'ont vraiment aucun goût. Et là, bah, c'est triste aussi, quoi. Enfin, je ne sais pas, je sais pas quoi faire pour eux. En vrai, c'est un peu énervant parce qu'il y avait un truc vraiment... Il y avait un truc qui était cool. C'était Tatiana Maslany, je crois qu'elle s'appelle, l'actrice qui joue She-Hulk. She-Hulk, oui. Et elle était trop bien. Cette actrice, elle est vraiment trop cool. Si vous voulez la voir dans une série incroyable, regardez Orphan Black. Moi, je fais de la pub pour d'autres séries qui sont
bien
comparées
Orphan
à celle-là.
Mmh.
Orphan Black est incroyable. Et en fait, cette actrice porte la série sur son dos parce que ça parle de clones. Et du coup, elle joue plusieurs rôles différents et c'est trop bien. Enfin bon, non. Là, on était parti sur autre chose. Du coup, le coup de l'avocate. Moi, j'ai trouvé ça cool. Tu vois, ça aurait pu être vraiment sympa. Mais non. Rien ne va. Elle, ça va pas. Quand elle est chez Hulk, ça va pas. Visuellement. Quand elle nous parle à la caméra, quand elle s'adresse à
c'est
nous,
toi, ça va
pas. Et le dernier truc qui n'y a pas, c'était Daredevil. Franchement, laissez-le. Vous auriez dû le laisser dans la série ailleurs. Je sais pas qui est ce Matt Murdock, mais ça va pas. Il a pris un coup sur la tête. Il y a un truc qui va pas, quoi. Rendez-moi le Matt Murdock d'avant.
Oh, zut, il est amnésique.
Franchement, ça aurait pu être ça. Charlie Cox, qui joue ce rôle de Daredevil. Franchement, pourquoi il a accepté ça? Il avait un rôle incroyable, le mec. Il avait un rôle trop bien et ils l'ont fait devenir un clown. Mais vraiment.
C'est une petite idée de pourquoi.
C'est un clown. L'argent. La mais moulin. Oui, l'argent. On l'a dit plus haut dans... playlist, non, l'argent change de gens.
En fait, il y a plein d'acteurs et d'actrices qui se rendent pas compte qu'on leur fait faire de la merde, mais qui sont juste heureux, heureuses d'arriver dans un univers plus grand où on leur fait faire autre chose. Oui, et c'est arrivé plein de fois, ça.
Ouais, mais là, c'est triste, vraiment. Et son perso était, son perso
tout,
était oui, bien. Et là, c'est un clown. Il est horrible. Il me fait même pas rire. Moi, j'ai mal pour lui. J'ai mal pour toi,
on
Charlie
qu'ils
Cox.
On dirait essaient de faire des blagues qu'il y a écoute, des fois dans des Marvel et qui ne pas très bien.
Écoute-nous, oui. J'ai mal. Enfin bref, parler de tout ce qui ne va pas dans cette série, c'est comme cette série, une perte de temps.
Oh. Vraiment. Mais... Il n'y a que des punchlines.
Là, elle a vraiment jeté le micro. Moi, sur Daredevil, en fait, moi, ce que je trouve malhonnête, ça ne me dérange pas de voir un Daredevil un peu marrant. C'est pas, il a existé dans les comics des Daredevil un peu plus léger, un peu plus rigolo. Mmh. Ce que je trouve malhonnête, c'est d'avoir recasté Charlie Cox et de jouer l'ambiguïté.
Oui, qu'on va retrouver.
C'est peut-être, non, c'est peut-être le même personnage que sur Netflix. Alors que non, pas du tout. C'est pas le même costume. Il a, c'est pas.
Son costume n'en parle pas.
Le costume est dégueulasse. C'est le personnage se comporte pas pareil. Ses pouvoirs sont pas les mêmes. En fait,
il
c'est
a
vraiment
pas de... Alors,
c'est
on
vraiment
met les
pas
choses,
le même personnage.
On met les choses au clair.
Mais la série et le MCU jouent trop l'ambiguïté de c'est peut-être le même. Et je trouve ça hyper malhonnête.
Il faut remettre les choses au clair. Dans She-Hulk, on a l'impression que Daredevil a des super pouvoirs.
Bah, il bouge comme Spider-Man.
Ce n'est pas mais Spider-Man. Oui. Le mec est aveugle et il arrive à se retrouver dans l'espace
son
et
pouvoir,
tout ça.
Son pouvoir, c'est d'avoir une sorte de sonar.
Ouais,
c'est ça, son pouvoir.
C'est ça.
C'est pas de se
oui,
battre.
Il peut voir derrière lui et tout.
Oui, ouais, et je ça. Trouvais que dans la version de Netflix, on ressentait ça. Genre, il se prenait des coups, il avait mal.
Oui.
C'était pas un surhomme. Là,
bah après, il y avait une autre ambiance aussi dans...
Ouais.
C'était en mode repentance.
Oui, mais même, je trouve
là,
que
il
là, ils ont,
cabrioles,
là, ils ont essayé. Il y a des passages où... Il y a des il y a un moment par exemple où genre on le voit dans un couloir, on a vraiment l'impression qu'on va avoir une scène de baston comme dans la série de Netflix et non pas du tout.
C'est désamorcé
par She-Hulk.
Par She-Hulk qui
tombe
du plafond. Mais c'est ça en plus qui est malhonnête, c'est qu'on dit hey, vous vous rappelez de la super scène de couloir? Et ben on va la refaire.
Mais on
et ben non. Mais on la refait en nul parce que on n'a pas envie et on met pas des personnes qui ont le talent de faire la scène du et on met pas l'argent parce que bah un plan séquence avec autant de figurants, autant de bagarres, de chorégraphie, bah c'est du temps.
Ça coûte cher. Ouais.
Et ça coûte cher. Et là bah du coup voilà. Moi j'ai aussi noté quelques trucs. Je sais pas si je vais être plus tendre, peut-être pas. C'est une catastrophe cette série.
C'est bien parti pour être plus tendre.
Comme disait Damien, c'est moche. Les effets visuels sont horribles. Les costumes, surtout celui de Daredevil, celui de She-Hulk, il est vraiment pas bien non plus. Alors, il est exactement comme ça dans le comics.
Mais...
Comment elle fait pour que ses cheveux ils poussent?
Alors
en
ça,
devenant
mais
She-Hulk.
Ça, mais quelle idée de merde! C'est nul!
C'est son pouvoir!
Oui, mais ouais, son pouvoir, ses cheveux poussent. Et ses cheveux, en plus de pousser, passent de frisé à lisse.
Oui.
Mais c'est nul!
C'est son pouvoir! Les rayons gamma,
mais
ça
soit
fait
vous
ça.
Changez la coiffure de l'actrice. Soit vous changez la coiffure des She-Hulk, mais c'est de la merde. La mise en scène, elle est absente. Je pense que personne ne réalisait cette série. On posait des caméras, on disait, bah allez-y. Les personnages connus sont incohérents avec eux-mêmes.
Oh, l'abomination,
donc il y a l'abomination.
Aucun sens.
Ça n'a... Vraiment, il est... Emil Blonsky est ridicule. Il est... C'est pas le même personnage qu'à la fin de... que dans l'incroyable Hulk. Je veux bien on évolue bien sûr en 10 ans, mais c'est pas la même personne. Enfin c'est son jumeau maléfique, je sais pas mais
bien maléfique tu veux dire.
Ou bien maléfique mais Wong c'est pareil il est nul, il est pitoyable dans cette série Wong. C'est une espèce de débile.
non mais
il en a rien à foutre du respect de ses pouvoirs. Il arrête pas de faire la morale à Strange, on est responsable, t'es le sorcier suprême. Mais là, il fait n'importe quoi, il évade des gens de prison. Enfin, c'est. Oh et puis Daredevil, on a déjà parlé. Puis le scénario, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a ni queue ni tête, ça va dans tous les sens, mais il se passe rien. C'est jamais drôle. Et puis parlons du final.
Oh non, mais. Ah là là,
Mais il s'est passé quoi dans la tête des gens qui ont écrit le final? C'est d'une abyssale nullité. Ça n'a aucun sens. Ça détruit totalement la suspension d'incrédulité. Et pour moi, ça rend caduque tout le MCU. Si je retiens cette série, je ne vois plus le MCU pareil. Parce que ça le pourrit entièrement. Et puis, bah, c'est pour finir, l'actrice est bien. Voilà.
J'étais en train de regarder... Bruce Banner, il a pas les cheveux qui changent hein, quand il se transforme.
Non, non.
Petite capillaire de la série.
Bah oui, non,
mais il y avait, j'avais vu des threads à la sortie de la série et je pense que c'est lié sur le fait que dès les comics, en fait, les Hulk féminins ont toujours été hyper moins musclés et sexualisés depuis le début.
Ah bah. Cool.
Donc du coup, le fait qu'elle ait une coiffure, des cheveux longs. Enfin, une coiffure différente.
Genre, elle est plus belle en Hulk.
Du coup, elle est plus belle en Hulk. Tu vois. Bah, déjà, la série n'arrête pas de le dire. Hein. Oui, je suis plus belle en Hulk. C'est pas seulement ça me donne confiance, c'est je suis plus belle en Hulk.
Ce qui est très bizarre parce qu'elle est verte, du coup.
C'est ton jugement personnel.
3 mètres de haut. Non, mais
revenons. Mais non, elle est même pas si grande que ça, en plus. Elle est un peu plus grande.
Je pense que ça fait bien 2 mètres, quand même.
2 mètres, c'est pas non plus gigantesque. 2
mètres 30, peut-être.
2 mètres 20, 2 mètres 30, c'est comme ça.
Donc. Ouais, je pense qu'elle est vachement grande, quand même.
C'est pas trop. Enfin, elle a pas l'air beaucoup plus grande que...
Est-ce qu'on va passer à la suite?
Oui, on peut passer au film. J'ai regardé un seul film ce mois-ci, et puis c'est même pas une nouveauté, donc on va aller très vite. Il s'agit de Rogue One, A Star Wars Story. C'est évidemment lié parce qu'au fait que Andor me chauffait. Et bah, qu'est-ce qui se passe?
What?
C'était sorti en...
Enlève ta patte de là.
Voilà, elle accuse la chienne, c'est si...
Elle s'est réveillée, mais c'est pas bon.
Rogue One était sorti en 2016, il dure 2h13, et c'est bien sûr dispo sur Disney+, c'est réalisé par Gareth Edwards, et c'est avec Felicity Jones et Diego Luna qu'on retrouve dans la série Andor, bien sûr. Si jamais vous ne savez pas de quoi ça parle, Rogue One est situé entre l'épisode 3 et 4 de la saga Star Wars, et le film nous entraîne aux côtés d'individus ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l'impossible au péril de leur vie, à savoir piquer les plans de l'étoile de la mort, l'arme de destruction ultime de l'Empire. Et ben j'avais pas vu Rogue One depuis très longtemps. Et puis le grand marathon Star Wars qu'on avait fait Mathilde et moi pour la sortie de Star Wars 9.
Oh là là, c'était il y a longtemps.
Donc c'était en 2019, avant le Covid, avant le monde d'avant.
3 ans.
Et avec le recul, c'est vraiment le meilleur Star Wars de l'ère Disney. Vraiment. Il a des problèmes ce film, c'est clair, des problèmes de rythme, surtout dans la première moitié. Mais alors je suis désolé, la bataille finale, elle est tellement incroyable que ça rattrape tout. Les 3 derniers quarts d'heure sont incroyables. C'est une masterclass de bout en bout. Je trouve que le film, c'est un vrai film de dimanche soir. Quand on a envie d'un film un peu rassurant qu'on a déjà vu.
Ça marche si tu l'as déjà vu.
Oui, il faut aimer Star Wars. Quoi. Mais vraiment, c'est un film que je vois très bien sur TF1 le dimanche soir. Je pense qu'il
c'est
marche.
C'est possible qu'il soit déjà passé.
C'est très intéressant, un peu plus sérieusement, de redécouvrir le personnage d'Andor, du coup, quand on le découvre plus jeune dans sa série. Et ça confirme, bah, du coup, la très bonne écriture de la série. Je remets une tartine de compliments sur Andor.
Voilà. T'as bien aimé ou pas aimé?
C'est pour combler les autres trucs nuls.
Voilà, voilà. Eh ben, on peut passer déjà au sujet du mois.
Yeah.
Oui. Cet épisode va être très court, on dirait.
Parce que moi, tout ce que j'avais, sinon, c'était de parler de qui ressort saison 1.
Mais on en a déjà parlé.
Et c'était très moyen.
Mais vous inquiétez pas, le mois prochain, ça sera beaucoup plus long parce que
mais
là,
oui,
j'ai plein de séries
qui... On regardera
qui
ressort 2.
J'ai plein de séries qui sont en cours, qui vont se terminer
la saison
le mois
2.
Prochain.
Je vais pas regarder.
Je sais pas. Eh ben, on va enchaîner sans plus attendre pour ne pas faire traîner trop le podcast et faire du watch time.
Watch time.
Bande annonce.
D'annonce.
Puis-je savoir?
Je recherche une jeune fille. Elle travaillait à la fabrique d'allumettes. Enola Holmes. Elle est détective.
Celle-là, on lui appuie sur le nez, il en sort du lait.
Elle a découvert quelque chose qu'une personne puissante veut cacher. Et c'est ça qui tue. Sherlock, que faites-vous ici? Est-ce mon enquête ou la vôtre?
Les deux. Il semblerait que nos enquêtes soient liées.
Le jeu de piste vient d'être relancé.
Extorsion, chantage, corruption. Je crains qu'elle ne fréquente des personnes peu recommandables.
Arrêtez cette fille!
Les crâneuses n'ont rien à faire dans notre lutte.
Crâneuse ou pas, en tout cas, moi, je sais me battre.
Enola a toujours adoré mettre la pagaie.
Ne sois pas si empressée de faire tes preuves, Enola.
Mais c'est important. Je sais ce que c'est de se sentir seule, d'être ignorée. Personne ne prête attention à ces jeunes filles. Mais je n'ai fait qu'envenimer la situation.
Ridicule. Tu dois te trouver des alliés. Travaille avec eux. Et ta nature profonde se révélera.
Vous vous arrêtez maintenant!
Tu pourrais être magnifique.
J'ai besoin de votre aide. Ne m'obligez pas à me répéter, puis-je entrer?
Tout le monde ici joue un rôle.
La croix désigne l'emplacement.
On se teste les uns les autres.
Ce n'est guère aimable!
Ne devriez-vous pas être à l'école?
Je me demande qui t'a appris à te battre comme ça. Encore un aspect éducatif de notre mère.
C'était la bande-annonce. Elle est pas si longue que le... par rapport à
d'habitude. Elle fait 1 minute 56.
C'est
ce qui est
vraiment
cool
très court
cool
pour Netflix. Il s'agissait de Enola Holmes 2, la suite du coup de Enola Holmes. C'est un film de Harry Bradbeer. C'est toujours avec Millie Bobby Brown, Henry Cavill et Helena Bonham Carter. Il y a... J'ai raté une ligne. Je ne sais pas la durée. Ni...
Bah si, tu l'as mis.
J'ai mis 7 épisodes de...
Oui, c'est un film de 7 épisodes. Ça dure 2h06, je crois, à peu près.
Oui, ça dure plus de 2h.
Moi, j'avais 2h06 sur mon petit timer Netflix quand je l'ai lancé. Oui. Je me suis dit, oh putain.
Là, je me suis dit pareil. Ça dure 2h09.
Ah putain.
C'est sorti le 4 novembre 2022 sur Netflix. C'est l'adaptation de la série littéraire Les Enquêtes d'Enola Holmes de Nancy Springer.
Oui.
Il n'y avait rien dedans.
Si, la suite. Pardon.
Oui. Néanmoins, ce deuxième film n'adapte aucun roman.
C'est cool comme adaptation.
Oui, voilà. Le scénario, ça c'est un truc cool que j'ai appris après coup.
Ouais, je l'ai vu à
la scénario est inspiré de l'ouvrière syndicaliste Sarah Chapman et de la grève des ouvrières des manufactures d'allumettes à Londres en 1888. Ces ouvrières ont fait la grève pour protester contre les journées de 14 heures, l'enfer, les bas salaires, les amendes arbitraires et la toxicité des allumettes au phosphore. Pour info, parce qu'on sent, on ne sait pas trop, c'est un moment historique outre-Manche, puisque c'est le premier mouvement social britannique mené par des ouvrières sans qualification. Et à l'époque, Wikipédia le précise, à l'époque, c'était le plus bas niveau de l'échelle, quoi. Quand t'étais une femme sans qualif, tu valais pas grand-chose sur l'échelle sociale. Là, je raconte vraiment, là, c'est le petit point secret d'histoire Stéphane Bern. Après 3 semaines de grève, l'usine Bryant and May finit par céder. Les ouvrières licenciées furent réembauchées, licenciées pendant la grève. Les conditions de travail améliorées, les salaires augmentés, les amendes supprimées et un syndicat fut créé, alors que jusqu'ici, les syndicats étaient réservés aux hommes. Voilà, ça s'est pas trop mal fini.
Ouais.
Revenons au film... Enola Holmes 2, parle donc de Enola Holmes, qui décide de lancer sa propre agence de détective privé. Cependant, contrairement à son célèbre frère Sherlock Holmes, la jeune détective peine à trouver des clients. C'est alors qu'une dénommée Bessie, qui fait partie des grévistes des manufactures d'allumettes,
enfin, elle ne fait pas encore grève.
Oui, c'est vrai que
c'est des futurs
grévistes des manufactures. Oui.
Lui demande de l'aider à retrouver sa sœur disparue, Sarah Chapman. Et si vous avez suivi, vous savez qui est Sarah Chapman. Qui veut commencer à parler de ce film?
Moi, je veux bien, parce que du coup, c'est un avis bizarre. Moi, du coup, je ne connaissais pas le 1. Je ne l'ai pas vu.
On t'avait dit de le regarder.
Donc, j'ai mis que ce film m'a pris au dépourvu. J'étais quand même pas mal happé par l'histoire. Non, j'ai pas beaucoup été happé par l'histoire, pardon. À part deux scènes.
Qu'est-ce qu'il raconte ?
J'ai dit un truc à l'inverse juste après. J'ai pas beaucoup été happé par l'histoire.
Oh là là, ça
l'échappée de la prison, la course-poursuite à cheval, ça m'a un peu remis dedans. Sinon, tout le début, je me suis pas mal ennuyé. Et la fin est très bien. En fait, les scènes de bagarre, elles sont très chorégraphiées. Ça marche bien pour le coup, je trouve, en général. Parce que c'est deux scènes de bagarre. Mais par contre, Henry Cavill, c'est cool qu'il soit là parce qu'il a l'air sympa et tout. Mais tu l'enlèves du film, c'est le même film. Hein.
Oui, mais c'est Henry Cavill.
Oui, non, mais il fait pas de mal. Mais je veux dire,
il fait pas de bien non plus. Mais...
Oui, voilà, c'est ça. Et puis j'étais un petit peu déçu du traitement de Moriarty pour le coup, qui dans les Sherlock Holmes c'est genre un grand méchant très intelligent, et là vraiment on apprend à la fin que c'est elle, alors que bah on s'en est rendu compte assez vite vu que c'est, il y a pas beaucoup de personnages quoi, donc c'est soit ils sont gentils soit ils sont méchants. Elle a l'air
Tu crois?
Moi
je pensais que c'était le commissaire.
Ah ouais?
Ouais.
Il était trop bête.
Ouais, je suis d'accord. Il avait l'air un peu trop con pour être...
Rien de Sherlock Holmes. Donc, si je sais qui est Moriarty, je sais que c'est son ennemi juré. Ou...
Mais ouais, mais c'est ça. Mais normalement, il est censé être aussi intelligent que Sherlock.
Mais du coup, pourquoi tu penses qu'il n'est pas aussi intelligent?
Bah, il se fait avoir comme un débile.
Mais c'est le jeu. C'est ça, en fait. C'est le truc. Après, pas dans tous les Sherlock Holmes, mais après, dans pas mal de Sherlock Holmes, c'est le chat et la souris. Il se fait attraper, et après, il repart et... Donc là, c'est ça, elle s'est fait attraper, mais deux semaines plus tard, elle est dehors de toute
façon. Oui, mais
toute
façon, oui, d'accord. Mais en fait, comme toute la partie avant où Henry Cavill se rend compte qu'il y a un espèce de truc sur une carte, mais on s'en
fout. Ça, c'est vraiment.
Ça sert à rien. Ça...
Oui, bah après,
puis
le problème, c'est que.
J'ai rien compris.
Le truc avec le livre des danses, il y avait intérêt qu'elle ait exactement le même livre, sinon ce
déjà,
code ne marchait pas.
À quel moment.
C'est pas
des
le livre
sont
le problème.
Des
c'est pas c'est parce que en fait ils regardent
c'est les
pas de danse qui sont représentées sur la carte.
Wow,
comme ça,
non, mais ça marche
à la fois c'est trop rapide parce
alors,
que tu le
ça,
comprends
ça
pas trop
que sur un scénario hein.
Mais en fait je me suis demandé est-ce que c'était bien fait ou pas, et j'ai comparé avec la série Sherlock.
Oui, bah forcément.
Et je me suis dit qu'en fait dans la série Sherlock c'est vachement mieux expliqué quand il y a des trucs comme ça, et que ça paraît super intelligent
et tout, il y a des trucs
et c'est plus. Vachement mieux. Que là, c'est pas ça.
Attends, je finis mon avis. J'ai mis, ça se regarde, mais est-ce qu'il faut le regarder pour autant?
Ouah,
ça moi aussi, je fais des punchs.
La punch. Là, c'est la soirée punch.
Pour moi, c'est vraiment du philosophique. Ça.
Punchline. Moi, je trouve que c'est la soirée punch.
Je vais essayer d'en trouver une par récapito l'année prochaine. Non.
Désolé, Aurel San.
Je vais faire un album.
Voilà. Mathilde, t'as un avis ou pas?
Moi, j'ai trouvé ça moins...
Ah, j'ai oublié de dire un truc.
Ah bah attends, vas-y.
Au départ.
Pardon. Et je trouve aussi, en plus de Moriarty, où on se doute assez vite que c'est Miss je sais plus quoi, Sarah aussi, en fait, c'est la seule personnage sur laquelle il y a un focus, donc on se doute que c'est la rousse du début.
J'avoue qu'Enola, elle est pas très personnelle.
Mais c'est vrai que moi, je me dis, bon, elle est blonde vénitienne, mais elle est rousse.
Mais oui.
Donc je l'ai grillé direct, j'ai dit, bah, c'est une meuf rousse, donc c'est elle. Hein.
Et je trouve que ça marche pas dans un film sur Sherlock Holmes. Enfin, tu vois, justement, la série Sherlock Holmes. Tu les vois pas, tous les trucs évidents, tu t'en rends compte, effectivement, au moment où il explique, là, tu revois et tu refais dans ta tête, ah, là, il n'y a pas ça, juste tu te dis, oui, bon, bah, c'est elle, et on va y aller, de toute façon, mais...
C'est vrai, je suis d'accord.
Mais en fait, on sent que c'est pas une adaptation, et que du coup, je dis pas qu'il faut toujours adapter, parce qu'à couteau tiré a montré qu'on pouvait faire des scénarios originaux de whodunit hyper cool. Mais là, par rapport aux énigmes du premier... Bah on sent que là, c'est quand même fait avec les sabots, quoi.
Ça, j'ai pas vu, du coup.
Oui, bah, tu verras. Mathilde, tu as la parole, pardon.
Bah, en fait, moi, j'avais bien aimé le premier. Là, j'ai moins accroché. Ils ont essayé de faire aussi un film féminisme, de sororité, tout ça. Je sais pas si c'est fait de la bonne façon. Il y a des moments qui sont cool, genre quand elles sont à la fin dans la truc d'allumettes là et qu'elles tapent du pied et qu'elles s'en vont, tu vois, tout ça c'est bien. Mais le reste, ça m'a un peu laissé perplexe. Même, ils ont voulu aussi ramener le lord du premier film. Et du coup, il sert à rien.
Non, il le pauvre.
C'est le love interesting.
Bah,
là,
c'est
mais
peut-être
ça sert
pour un
3,
quoi, du coup. Et là, ils le ramènent et ils essaient de...
Ouais, mais du coup, il est là, mais ça sert pas à grand-chose.
Il est là pour être là, quoi.
Et puis, même Enola, elle s'en fout un peu de lui quand il est là. Et puis Enola, s'il vous plaît, pourquoi est-ce qu'elle a des mèches blondes partout?
Mais ça l'a vraiment perturbé.
Ça m'a vraiment trop perturbé pendant
les mèches
le
blondes,
film.
Ça t'a perturbé?
Mais oui, parce qu'en fait...
Bah, c'est une décoloration, qu'est-ce que tu veux?
C'est pas possible.
Bah bien sûr que si.
À l'époque, il faisait de la décoloration.
Bon, avec de l'eau... je sais plus comment
de
ça
s'appelle. De Javel?
Non.
De l'oxygène.
Oui, voilà, avec de l'oxygène.
Franchement, moi, je trouve
j'appelle
ça
Jacques
trop... Je sais pas, tu
vois.
Moi, ça m'a vraiment... En plus, sa mère, elle arrête pas de dire que ses cheveux sont mal. Fin...
Mais oui, alors que c'est Helena Bonham Carter qui a vraiment des vœux.
C'est
pas
la qui n'est jamais bien coiffée.
Non, mais en fait, je sais pas. Par contre, l'acteur qui joue le méchant, eh ben, c'est la deuxième fois qu'on le voit dans un rôle de méchant.
C'est la troisième fois.
Alors, il y a plusieurs méchants.
Le méchant dans Harry Potter. Ce mec dans Harry Potter.
Lupin dans Harry Potter.
Oui.
Là, il jouait, il était gentil.
Ouais.
Mais dans Wonder Woman, il est méchant.
Oui. Ah, oui.
Dans Sandman, il est méchant.
Oui, dans Sandman, on l'a vu, il faisait très peur.
Et là, il est méchant.
Et là, ouais. Il est méchant aussi.
C'est un bon méchant.
C'est un bon méchant, ouais. Mais du coup, je suis triste pour lui parce qu'il joue que des rôles de méchants en ce moment.
Et pourquoi est-ce qu'il a pas buté Enola Holmes au tout début, du coup?
Ah non, mais.
Il joue à cache-cache.
Il n'y a plus de film.
Il y a des vraies questions, genre pareil, quand il dit. Quand Sherlock est en train de dire alors oui, c'est un de vos hommes. En gros, il dit ça. Un de vos hommes parce qu'il a tué la bonne femme. Et l'autre, il se cache les mains, genre, tu dis mais vous êtes nul ou quoi? Et franchement, Enola.
Ah oui, il
n'y
a que trois flics d'ailleurs, parce que c'est incroyable, oui. C'est toujours les mêmes.
Et puis, je trouve que, autant peut-être dans le premier, j'avais l'impression qu'elle avait des moments de lucidité. Là, Enola, j'ai l'impression que c'est son frère qui découvre tout.
Je trouve qu'il lui vole souvent la vedette.
Et j'étais en mode, mais c'est bon, on sait que c'est un mec, laissez-la. vous voulez faire un film féministe et c'est lui qui a toutes les bonnes réponses, laissez-la faire.
Bah oui, voilà. C'est Henri Cavill.
Bah, j'ai rien d'autre à dire.
D'accord. Et ben moi, comme j'ai déjà dit, j'ai moins bien aimé que le premier. Mais j'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus l'effet de surprise? Est-ce que c'est parce que c'est moins original? Peut-être c'est moins bien. Ou est-ce que c'est que je garde un trop bon souvenir du premier? Est-ce que c'est parce que c'est pas une adaptation? En fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi. C'est peut-être un peu
peut-être
tout
un...
ça
ouais,
aussi.
Voilà.
Après coup, comme je disais aussi, j'aime bien quand on raconte une petite histoire dans la grande histoire. Ça, à chaque fois, ça marche sur moi. Par exemple, je me rappelle, digression, mais quand on avait vraiment, vraiment pas aimé Once Upon a Time in Hollywood, vraiment dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Et après coup, on regarde vite fait l'anecdote, enfin l'histoire, sur. C'est Sharon Tate, l'actrice.
Oui.
Et en fait, ce film est incroyable. Et en fait, du coup, on a passé une heure après sur Wikipédia à lire l'histoire de Sharon Tate. On fait, mais ce film était complètement dingo.
Mais c'est parce qu'on n'avait pas les refs.
On n'avait aucune
ref. On pouvait pas comprendre le film.
Mais oui, mais enfin, si le film est nul, si t'as pas la ref, bah c'est que le film est nul malgré tout.
Parce que le film est
là,
construit
là-dessus.
Là,
c'était fait pour ça.
Après, on va pas parler de... Même s'il est sorti sur Netflix, il est dispo là depuis cette
semaine. Ah bah tiens, la bonne idée pour se refaire un petit coup. Non, il est trop bizarre.
Mais voilà. J'ai trouvé que, par contre, Millie Bobby Brown, elle jouait pas toujours très bien dans ce film. Des fois, elle était un peu en surjeu quand elle fait la bagarre, là.
Ouais, un peu.
Ou alors, elle a pas beaucoup d'émotions. Elle en a genre 4. Elle a contrarié, contente, réflexion.
Ils sont censés être un peu bizarres, hein, tous.
Oui.
Tous les Holmes.
Mais elle était pas comme ça dans le premier. Elle était beaucoup plus joyeuse et amusante. Enfin, quand elle parlait à la caméra, c'était plus rigolo.
C'est vrai.
Là, c'était un peu...
Je suis pas sûre qu'elle avait très envie de le faire.
Bah, pourtant, elle est productrice, donc du coup...
Ah bah, j'espère que si, finalement.
Henri Cavill, bon, comme on a dit, il est toujours cool.
Il y a vraiment, je me souviens d'une espèce de scène où ils sont sur une espèce de chariot et tu vois juste la tête de Henri Cavill pendant super longtemps. Et en plus, l'effet est assez mal fait, le fond, et il bouge pas beaucoup.
J'ai l'impression que le film mise un peu trop juste sur la sympathie d'Henri Cavill.
Clairement.
Bon, tout le monde aime bien Henri Cavill, bon, on va le mettre beaucoup. Mais ça, c'est un problème parce que, comme on dit, il vole la vedette. Ouais. Parce que malgré tout, il a pas grand chose à faire non plus.
Bah, vraiment, tu l'enlèves, ça change pas grand
chose. Oui, c'est ça. Mais je répète que j'aimerais bien voir ses aventures perso dans une série ou dans un film, juste un Sherlock Holmes avec Henri Cavill. Et ça ferait du coup une sorte de Holmes Cinematic Universe, mais ça pourrait être trop bien.
Moi, je préfère la version de Sherlock.
Oui, mais c'est vraiment une petite version.
Si tu veux regarder Sherlock,
oui, mais je veux
Sherlock.
Bien. Mais c'est totalement différent. Va, déjà, c'est contemporain.
C'est mille fois mieux.
Oui, c'est mieux, mais je veux dire, déjà le principe de base, la série Sherlock, elle est contemporaine. Oui, là, on est au 19e siècle. Mmh. On est beaucoup plus proche de l'œuvre de Conan Doyle, alors que voilà. J'ai trouvé que la double enquête. Donc celle d'Enola et celle de Sherlock étaient hyper poussives. C'est pas fluide. On nous trimballe d'un endroit à un autre. On fait « Ah bah là, il faut trouver ». C'est presque un escape game à chaque fois. Enfin, il n'y a pas de... Dans le premier, ça coulait, quoi. C'était beaucoup plus agréable à suivre. Enfin, pareil, je pense que mes souvenirs sont...
Biaisés.
Ouais, je trouve aussi, j'ai oublié.
Il y a cinq fins. Il y a beaucoup trop de fins. Moi j'ai dit, mais au bout de la troisième, j'ai dit, c'est bon, j'en ai marre, amenez le générique.
2h09.
J'ai vu qu'au bout d'un moment, ils se sont endormis trop. Ils étaient trop en mode.
Mais j'en avais trop marre. Hein, c'était... Et vraiment, ce film, il doit durer 1h30, pas 2h. Non, mais 1h30, ça aurait été parfait.
Bah oui, t'enlèves Henri Cavill et toute cette partie où il fait des mystères.
Et t'enlèves les trois fins. En fait, t'enlèves Henri Cavill, t'enlèves le comte de le Lord.
De Buckenberry,
j'ai oublié aussi. et bah voilà, le film va mieux.
Le film va très mieux. Le coup de la prison aussi, trop de trucs à rallonge.
Ça sert à rien de l'amener en prison.
Oui, mais la scène où il s'échappe, c'est cool.
Oui, mais ça réveille tout le monde.
Bah ouais, bah c'est bien.
Super, la scène qui te sert à te réveiller.
Et en plus, elle est vraiment pas incroyable, la mise en scène. C'est une scène de course-poursuite en chariot. Et...
Ouais, mais il y a des petites
astuces. Ça explose.
Ouais.
Elle fait des petites blagues avec les bombes, genre « Oh, celle-là, ça va. Oh, celle-là, ça va. Ah, celle-là, ça va pas. C'est dangereux. » Moi, ça m'a fait un peu rire.
Oui, mais pas...
T'as la rigolade facile, hein. On va se le dire. T'as la rigolade
facile. J'ai
regardé
qui ressort, il y a des trucs qui m'ont fait rire.
Oui, c'est vrai.
Pour conclure, c'est pas nul, mais c'est pas génial non plus. Enfin, je crois que j'oublierai très vite ce film.
Voilà. Oublier, délivrer.
Oui, je pense. On va passer maintenant aux recommandations et aux nouveautés du mois de décembre. Mathilde, on te donne le bâton de la parole pour...
Le bâton.
Et après, tu peux le donner à qui tu veux.
Alors, les recommandations et les nouveautés du mois de décembre, s'il vous plaît.
Non, de novembre.
Non, c'est décembre. C'est pour décembre.
D'accord.
Moi, je sais, c'est décembre. Okay. Alors, ça continue. Alors, j'ai pas mis tous les... Attends, Willow, ça a commencé.
C'est sorti aujourd'hui.
Oh là là.
C'était prévu, hein.
Oui, en plus, je l'ai dit l'année dernière, le mois dernier.
Toujours pas. Le regarder quand, de toute
façon. Ah, il faut que je regarde. Mais en fait... J'ai envie de regarder plein de choses, mais là, je n'ai plus le week-end.
Oui. Donc ça attendra janvier.
Je ne sais pas comment je vais faire pour regarder.
Janvier,
la nuit et le matin. Et la journée, je dors.
Oui.
Ils vont être contents, mes clients. ça continue. On a Chainsaw Man, saison 1 sur Crunch. Je ne sais pas combien. Crunchyroll. Je ne sais pas combien d'épisodes il reste.
Je ne sais pas.
Je sais pas. On a My Hero Academia, saison 6
Damien.
Sur Crunchyroll.
Très peu concerné par cette.
C'est pas vrai parce que j'ai vu qu'il a gardé.
T'es... Oui, je le regarde.
Moi, je suis à l'épisode 7 actuellement, et moi, je dois être au... Il m'en manque 2 au moins.
Non, mais je le regarde, mais je... Ouais.
La motivation n'existe, n'est pas là. N'est pas là du tout. My Hero Academia, saison 6 sur Crunchyroll aussi. Je crois qu'on approche de la fin de la saison.
Ça donc, ressemble à une fin de saison, là, en tout cas, ouais.
Ça va bientôt, bientôt. Willow, donc, il nous reste 6 épisodes. Il y en a 2 qui sont sortis aujourd'hui ou 1
Deux
qui sont sortis aujourd'hui. Ouh, je vais regarder ça demain. Et sinon, il y a d'autres trucs. Il y a Spy X Family, ça continue aussi.
Tout à fait.
Et il y a d'autres trucs.
Bah moi, il y a la série des Gundam qui est plus récente que je regarde encore. Mais c'est tout. Parce que je regardais un truc de ninja, mais en fait, c'est nul, j'ai arrêté.
D'accord. Okay.
Vous voulez l'info pour Chainsaw Man ?
Ouais.
Il reste 4 épisodes.
Ok, et MH.
Ah, pour le coup, en plus, Chainsaw Man, ça me faisait un peu chier. Enfin, j'aimais pas trop. Et là, au moins, il se passe des choses dans les épisodes récents.
Ah, bah, tu vois, tu étais en train de faire genre, t'étais pas concerné. Mais...
Oui, parce que.
Est-ce qu'ils ont trouvé le démon pistolet ?
Oui, et ils l'ont tué.
Bah, oh. Bah j'ai pas vu ça. Hein. Moi, je suis au moment où ils sont bloqués dans la chambre d'hôtel. Enfin, ils sont bloqués au 8e étage.
Ça a l'air d'être un animé génial. Ils sont bloqués dans la chambre d'hôtel.
Ils sont bloqués au 8e étage.
La porte est fermée.
Non, ils sont pas bloqués. Ils sont juste dans une boucle du 8e étage.
Mm-hmm. Pour My Hero Academia, il reste 3 épisodes.
Oh mon Dieu.
Ah, bah, c'est bien, on va avoir des trucs. Enfin, bah, si toi aussi, tu les regardes tous.
Non, mais moi, je les ai lus. Hein, donc, j'ai un petit peu d'avance là. Et aïe, les gars.
Donc elle peut faire le récapito de My Hero Academia
en avance.
On peut le faire
on
maintenant.
On va pas faire ça. Alors, sinon, les choses qui commencent, qui reprennent en décembre, on a le jeudi 1er décembre, donc demain, c'est incroyable, il y a Troll.
Est-ce que c'est le truc avec Guillermo del Toro
enfin, non, c'est Troll saison 1 sur Netflix. Non, c'est une série.
Oui.
C'est...
Ah, est-ce que c'est une série norvégienne ?
Oui.
Ah, mais j'ai vu la bande-annonce.
Mais t'as envie de voir ça ?
Mais en fait, c'est une...
Ça a l'air d'être Michael Bay norvégien.
Quoi ? Moi, j'ai juste vu qu'en gros, il y a un troll qui... Moi, j'ai lu le résumé, il y a un troll qui se réveille et du coup, le but, c'est d'arrêter le troll.
Ah,
moi,
j'ai vu des images où ils font de l'escalade sur
j'ai
le troll.
J'ai vu des images et ça a l'air premier degré, ça a pas l'air d'être du coup du
tout rigolo. Ah, tu penses que c'est en mode comme un kaiju ?
Ah ouais, moi, je pense que ça va pas te plaire, hein.
Elle kiffe tellement le truc norvégien maintenant que même quand c'est nul, au cas où.
Je suis trop déçue. Mais non, mais vous vous rappelez la série norvégienne avec les de Noël de l'année dernière
que j'avais
regardée.
Je pense que ce sera pas bien. Enfin, ça sera comme ça, mais avec des fusils et des militaires.
Ça faisait peur.
Moins oui. Noël, non.
Oui, ouais. Mais ça faisait pas Noël, ça faisait peur aussi. C'était une série de Noël, mais qui faisait peur l'année dernière. Elle était trop bien.
Je me souviens que vous aviez parlé, mais je ne l'avais pas vu, moi.
Raté. Moi, je pensais avoir un truc bien.
Mais non,
bien,
mais ça se trouve, il faut regarder un épisode.
Raté. Vendredi 2 décembre, il y aura la saison 2, partie 1 de Toujours là pour toi sur Netflix. J'avais regardé la saison 1 sur Netflix l'année dernière, je pense. C'était avec deux amis qui se brouillent, qui ne sont plus amis, je crois. Et pourquoi ? On ne sait pas. Et c'était ça, le truc, je crois. Je ne sais plus. Sinon, il y a également Your Christmas or Mine qui sort sur Prime Video. C'est un film avec un des acteurs de Sex Education.
Ok. Il y en a plein.
Le plus connu qui s'appelle Otis.
Le héros.
Ah oui.
Otis. Qui s'appelle Otis. Bah, c'est lui le héros principal de ce film. Mais j'ai pas lu le synopsis. Mais j'ai juste vu sa tête et je fais oh, on va le mettre là, ça a l'air bien. C'est un film de Noël, évidemment. Le jeudi 8 décembre, Lookisme, série adaptée d'un webtoon sur Netflix. Ah, mais oui, c'est moi qui avais écrit ça il y a longtemps.
Pas du tout, je l'ai écrit tout à l'heure.
Ah ouais ? Mais je l'avais vu. Non, je l'ai noté dans mon cahier. C'est... Ah, j'ai pas repris mon carnet. Donc, ça se trouve, il y a des trucs que j'en ai oubliés.
Ça a l'air d'être le même principe que... comment c'était le webtoon ? Beauty, je sais plus quoi, là.
C'est un peu différent parce que c'est un mec...
Bah, sauf que là, c'est un gars, mais c'est le même c'est le même trope. C'est,
Mais je crois pas parce que du coup, il devient beau. En gros, c'est genre, il devient tout le temps beau.
Je sais pas, le synopsis dit que des fois il est moche, des fois il est beau.
Ah ouais ?
Ouais.
Ah, j'avais pas compris ça. Bah moi, j'avais pas compris ça, j'avais compris qu'il devenait beau.
Oh bah, peut-être que le synopsis dit n'importe.
Bizarre. Mais après, j'ai pas lu le webtoon, non. Le 9 décembre, il y aura le Pinocchio de Guillermo del Toro, qui est donc un film en stop motion, il me semble, qui sort sur Netflix. Il y aura également La Nuit au Musée, le retour de Kamurera. C'est un film d'animation sur Disney+.
Qui a demandé ça ?
Ils font la suite de La Nuit au Musée.
Qui a demandé une suite de La Nuit au Musée ?
Écoutez, je fais que dire
oui,
ce qu'il y a.
Oui, c'est surprenant. Mais...
Le mercredi 14 décembre, il y aura The Passion, qui est une série. Donc là, ce sera la saison 1 sur Disney+. Et on a regardé un petit peu la bande-annonce avant de commencer. C'était avec le mec de The Office.
Ah, Steve Carell.
Avec Steve Carell, sauf qu'il a, il faisait un truc, en gros, je crois que c'est un psy, et il y a un de ses patients qui l'enferme dans sa cave, et
ah,
il tue
oui,
des gens.
Ah oui, j'avais pas suivi le nom du...
Je crois que c'est ça, ça fait peur.
Oui, ça n'a pas l'air très joyeux.
Le 19 décembre, il y aura A Storm for Christmas, saison 1 sur Netflix. On m'a recommandé cette série parce qu'apparemment, ça ressemblait à la série A Home for Christmas qu'on avait regardé les deux dernières années. Et on avait regardé la saison 1 et la saison 2.
C'est peut-être juste le titre qui ressemble. Hein.
Non, apparemment, c'est aussi de la même origine.
C'est nordique.
C'est nordique aussi. Je regarde que des trucs nordiques. Voilà, c'est moi. Vendredi 16 Bonjour. Décembre, on a The Recruit. Comment on le dit ? Aidez-moi.
The Recruit.
Ouais.
The Recruit.
The
Recruit.
De...
Le Recruit.
La saison 1 qui sortira sur Netflix. Alors ça, c'est amusant parce qu'en fait, ils ont pris un des acteurs qui jouait avant beaucoup dans les rom-coms pour en faire un acteur de série un peu policière. C'est pas vraiment policière, c'est... Comme on pourrait dire, tu sais... Ouais, c'est ça. Le synopsis, c'est un jeune avocat engagé par la CIA se retrouve au cœur d'un dangereux imbroglio
ouais.
politique aux ramifications internationales lorsqu'une ancienne source menace de révéler la nature de sa longue relation avec l'agence à moins d'être innocenté d'un crime terrible. Et du coup, l'acteur, c'était Noah Centineo. Et en fait, il a joué dans... Que des rom-coms, vraiment, sur Netflix. Il a fait À tous les garçons que j'ai aimés, The Perfect Date, Sierra Burgess, machin, Loser, là. Pareil, en fait, c'est...
L'irrespect pour celle-là.
Je suis désolée, le nom...
Bah, il a eu une envie de changement, c'est bien.
Le nom est parti en cacahuète. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'il a vieilli.
Ah, mais oui, c'est lui. Oh, bah, je suis pas étonnée de le voir dans les films de bagarre.
Ah bon ?
Bah, il est costaud.
Oh, tout de suite. Moi, je sais pas, la dernière fois que je l'ai vu, il avait 16 ans dans un film. Ah non, attends, peut-être pas, parce qu'il a... Il a quel âge ? 96.
96 ans, c'est pas tout jeune.
Non, 1996. Il est né en 96. Il a quel âge ? Je ne sais pas.
Bah, ton âge, moins 4.
Ça fait beaucoup d'âge.
Ça fait 26. Beaucoup d'âge.
Voilà, c'était mon calcul. Heureusement que je ne rends pas du tout la monnaie à des gens.
C'est une machine automatique.
Et en effet. Mercredi 21 décembre, il y aura Emily in Paris, la saison 3, qui sera également la dernière saison. Êtes-vous prêts à connaître le final ? Qui Emily va choisir ? Qui ?
Ah, parce que il y a des enjeux, vraiment.
Va-t-elle choisir le beau Gabriel ou le beau, je ne sais plus son nom ?
Tu fais semblant d'être motivé, mais tu t'en fous. T'as oublié le nom du mec.
Je m'en fous. En plus, les deux ils sont bien. Par contre, j'ai regardé la bande-annonce tout à l'heure et j'ai aussi cru que ça allait partir en troupe.
Ah.
Parce qu'à un moment, oui, c'est ce que je me suis
Par
dit.
Contre,
je me suis dit,
faudrait pas que ça devienne vraiment la facilité. Dès que tu mets un triangle amoureux, bon, un trouple. Allez.
Je me suis dit que si plus ça finissait en troupe, ça serait trop marrant. Ça me plairait parce qu'à un moment, ils sont tous les trois assis dans un train et il y a la voix off qui dit après tout, pourquoi faut-il choisir ?
C'est bien parti.
Oui, c'est vrai.
Et je me suis dit, ah, un troupe encore.
Dans Plus belle la vie, est incroyable. Il y a la même chose. Il y a eu, à la fin, dans le dernier épisode, il y a une des personnes, des filles qui a deux prétendants. Bah, elle ne choisit pas. Elle dit, allez, les deux. Mais sauf que les deux gars ne sont pas du tout chauds pour... Enfin, sont d'accord pour partager, mais ne veulent pas vivre en troupe. Donc en fait, c'est un troupe parce que les scénaristes ne savent pas ce que c'est un troupe, je pense.
Ah non, mais là, par exemple, dans la série qu'on parlait tout à l'heure, ils ont l'air d'être... Enfin, ils sont tous les trois amoureux les uns des autres. Là.
Oh non,
là, je pense que si c'est un troupe, ça ne va pas marcher en vrai. Parce que Emily, elle les aime tous les deux. Mais je suis pas sûre qu'eux, ils s'aiment
ça,
bien,
c'est
tu vois.
Des vrais troupes.
Donc, je suis un peu perplexe.
C'est comme dans Plus belle la vie.
Je pense pas que ça va fonctionner, mais ça aurait pu être une fin intéressante. Le vendredi 23 décembre, il y aura Glass Onion, une histoire à couteau tiré, film suite de à couteau tiré sur Netflix. On en avait déjà parlé le mois dernier, je crois, ou le mois d'avant, quand il y avait eu les annonces de Disney,
oui.
de Netflix, de trucs. Vendredi 25 décembre, le grand attendu... L'attendu The Witcher Blood Origin, la saison 1 sur Netflix, débarquera.
C'est en live action ?
Oui.
Ok.
C'est une grosse série. C'est un préquel. Et il y aura également un film, Mathilda, ça c'est mon film.
Ah mais j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air marrant.
C'est vrai, je l'ai pas vu moi. Tu l'as vu où?
Je sais pas.
Bah, comment c'est possible, je l'ai pas vu moi. Je l'ai cherché tout à l'heure, je trouvais pas.
On voit des vidéos sur plein de trucs.
Bon d'accord, donc c'est Mathilda, une comédie musicale adaptée du roman de Roald Dahl sur Netflix. Et comme c'est une comédie musicale, moi j'ai envie de le voir parce que j'adore les comédies musicales. Mmh. En plus, ça sort le jour de Noël. Il faut que je regarde ce film. Mmh. Et on finit avec le 28 décembre avec le film Happy New Year, pas New. Nous.
Ah, c'est, oh, c'est vraiment.
Happy New Year, un c'est, film français sur Netflix avec Kev Adams.
Ah. Et Camille Lelouch.
Et Camille Lelouch.
On va passer un moment délicieux.
J'ai vu ce film, ils sont bloqués dans un ascenseur.
Oh là là.
C'est donc un...
Mon cauchemar.
Être bloqué dans un ascenseur avec Camille Lelouch et Kev Adams. Vraiment,
autant Kev Adams, ça peut être marrant, mais Camille Lelouch, j'ai du mal avec son humour, donc du coup, ça peut être très long.
Du coup, pour ce mois de décembre, quelle plateforme nous conseillez-vous? Clairement, moi, j'ai presque trouvé que des trucs qui sont sur Netflix, donc j'aurais tendance à dire Netflix. Mais c'est Noël, c'est décembre, et comme en tout mois de décembre, il est toujours bon de faire un gros marathon de films de Disney. Donc, mon cœur balance. Mon cœur balance.
Entre Disney Plus et Netflix.
Oui.
Au pire, les deux.
Au pire, j'ai les deux. Moi, ça
mais c'est pas ça le principe. Ah, du... alors... Là, ça va finir en troupe.
c'est moi, Disney et Netflix. On y va tous les trois.
Moi, je suis un peu mitigé. Parce que d'un côté, il y a Willow. Et
Il y a Willow,
y a Willow sur Disney Plus. Et...
Mais surtout,
bah, on sait très bien qu'il y a des tonnes de films de Noël de sur Disney Plus. Non, c'est
non, mais non, Willow.
C'est le petit.
Mais ça va
c'est
pas.
Le petit être.
Et toi.
Mais en même temps, sur Netflix, il y a plein de trucs et il y a surtout Glass Onion.
Mais on déclare qu'il y a un truc qui s'appelle Willow qui parle de dauphin.
Non, ça c'est Willy. C'est Sauver Willy.
Ça va pas du
j'ai
tout.
J'ai l'impression d'avoir déjà eu cette discussion.
Bah, je pense que je vais dire Disney+.
Oui, Disney+, gagne. Il y a deux voix contre zéro. Damien n'a pas donné son avis.
Bah, moi, je pense que je resterai sur Crunchyroll parce qu'il y a tous les animés que je regarde.
Damien dit Crunchyroll tous les mois.
Bah...
Non, c'est parce que la plateforme reste la meilleure.
Je pense qu'il y a eu Disney Plus à un moment donné, quand il y a eu les séries Star Wars qui sont ressorties.
Mm. Ah, mais il y a les Gardiens de la Galaxie en plus ce mois-ci. Allez, Disney Plus gagne.
Mais oui, il y a quelques trucs sur Disney Plus que j'ai envie de regarder en plus. Donc ça serait soit Crunchyroll, soit Disney Plus.
En plus, il a envie de regarder sur Disney Plus en plus.
Et donc pour le mois prochain, Mathilda, ça vous va?
Oui.
On peut partir là-dessus. Puis si jamais tu vois que ton mois est vraiment trop chargé, bah on peut changer.
Oui.
C'est pas gravé dans la roche.
Gravé dans la roche.
Sniper, j'ai la ref, 2003, yo-yo.
Ah oui, t'as même l'année. Ah, mais il y avait la musique. C'est pour ça.
Ainsi ouais. Se termine ce 25e épisode anniversaire du Récapito.
Wouhou. Mais attends, c'est le 25e. C'est plus que 2 ans.
Oui, mais c'était en novembre.
Ah, d'accord.
On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël.
Une bonne année.
La musique n'est pas du tout appropriée.
J'ai envie de chanter Petit Papa
Noël.
Par
contre, du coup, une bonne année, normalement, on devrait le re-souhaiter.
On va re-souhaiter la bonne année.
Bien sûr. On espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez nous mettre plein d'étoiles pour nous aider à être référencés. Il faut la chanson est très forte. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux Insta et Twitter et surtout sur notre blog plaid.fr. Et comme disaient
les tontons,
on se retrouve l'année prochaine.
L'année prochaine.
Pour parler
de Mathilda. C'est moi.
La chanson de LJ.
Ou la chanson de
Harry Styles.
Oui.
Harry Styles qui est mon artiste préf sur le Spotify Wrap.
Un lien avec une série que vous avez regardée ce mois-ci.
Allez, on vous souhaite une bonne soirée, journée, tout ça, parce que j'ai mal à mon oreille. Des bisous.
Merci Mathilde, merci Damien.
Merci à toi. Et joyeux anniversaire.